I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Allô les amis, comment ça va ce matin? Alors la caméra devrait s'allumer ici, ok. Ok, et ici. Et ici, et ici, et ici. Comment ça va les amis? Chose promise, chose due, on avait promis le retour de la revue de presse sur cette chaîne Twitch. Hein, plus de revues de presse, plus d'infos, plus d'actualités. Malgré parfois un chat très... enflammé sur ces questions d'actualité, merci les modos. Chose promise, chose due, promesse tenue, let's go. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on pouvait pas, il y avait le spectacle des enfants à l'école. Oui, électrique, Sugar. Et du coup, on est de retour ce matin. Par contre, demain, bah non, demain c'est samedi, puis en plus, je suis en question pour un champion exceptionnellement. Un tournage tout le samedi. Je trouve que c'est la première fois en 9 ans de question pour un champion que je tourne le samedi. Le retour de l'hebdo Etienne, un jour, point d'exclamation, hebdo, H-E-B-D-O, maths. Tu auras toutes les infos, ça, on sait du domaine du possible un jour. Mais c'est compliqué. Voilà. Pour les raisons qu'on a déjà souvent évoquées ici. Je viens de me retrouver face à une énorme araignée. Alors, je suis arachnophobe, je suis en PLS, Samuel va m'aider à me détendre. Si la douche, un récipient, un gros récipient, casserole ou gros verre, hop, sur l'araignée. la petite feuille en papier que tu passes en dessous, la feuille A4 du récipient, hop, chut. Du coup, l'araignée est prise et puis tu la relâches dans la nature. Voilà. Easy. Easy peasy. Je ne sais pas, Pauline, il faut demander à Astrid, je n'ai pas de nouvelles. Eh oui. Je maudis mes 2 heures de réunion à 10 heures qui me privent de Sam Sam. Pixis, tu te mets ça dans l'oreillette, vite fait, tu te mets Twitch dans l'oreillette, ça ira très très bien. Je vous lis, c'est mon petit plaisir de ce matin. Griller le coca au petit-déj. Le petit coca au petit-déj, j'ai une hygiène de vie assez, assez parfaite, j'avoue. Salut bouillotte de slip. Alors, j'aime m'interroger sur les pseudos, ça c'est l'un de mes petits plaisirs. J'avoue que bouillotte de slip, ça ne l'avait pas, ça. J'aime bien, j'aime bien, on valide. Quoique, en ces températures, on va beaucoup parler de climat ce matin et de changement climatique, c'est à l'une de plusieurs journaux, et tu m'étonnes, en ces temps de chaleur, là, la bouillotte de slip, non. Non, non. Merci Lizou Montage pour le 9e mois, merci Alex02 pour ce 2e mois, tu es le premier sub de la matinée. Bah oui, Nizi, c'est toi qui me parlais de tes coups de soleil hier. Oh là là, malgré la crème. C'est comment peut-on attraper des coups de soleil alors qu'on se crème? Ça, c'est une question qu'on s'est posée hier soir. Ça va super, Samuel, je connais enfin le sexe. Me dit Broubrou06. Ah, pardon, j'ai pas tout lu. Excusez-moi. Comme quoi, la ponctuation, c'est important. La phrase n'est pas terminée. Ça va super, Samuel Etienne, je connais enfin le sexe de mon bébé. Eh oui, ce n'est pas la même chose. Tu dirais quoi, garçon ou fille? Ah ben, je sais pas, j'ai une chance sur deux, littéralement. Je vais tenter ma chance, je vais dire garçon. Garçon. Première kermesse de ma fille. Ah ouais, ma trim, trop bien ça, les kermesses, les fêtes de fin d'année. Qui ne connaît pas le sexe? Bah, pucelle liquide, le sexe n'est pas une obligation, hein. C'est pas. Hein? En soi. Pseudo qui vient d'une conversation sur la contraception masculine suivie de la création d'un compte Twitch. Bien sûr, ah oui. La contraception masculine, hein, dont on parle très peu dans notre société, je me rappelle d'un dossier de libération sur le sujet, voilà, avec notamment une méthode où de maintenir les testicules à une certaine température, en fait, doit enrayer la spermatogénèse, un truc comme ça, non? Ou enfin, un truc comme ça. Le fait de remonter les testicules en fait. Du coup, il fait plus chaud. Avec certains, ceux qui connaissent pas. Hein, c'est ça? Et ça chauffe et du coup, il y a hein, le boulot chaud. Ça parle de couilles de bon matin comme ça. On est comme ça. Ça, c'est cette chaîne qui veut ça. Ah, ah oui, la présentation dans 1 heure. Ah, oui. Pendant 1 heure. Ah oui. Ah, oui. Le ventilo est en marche. Oui, pas en dessous. Moi, je n'ai pas le ventilo sur le caleçon, comme certains, parce qu'on a eu un débat là-dessus aussi il n'y a pas très longtemps. Moi, le ventilo, il est là, à ma gauche, il me fait du bien, là. Il y a un article intéressant sur The Economist, excellent journal, enfin, à l'époque où je le lisais, je sais pas, c'était il y a longtemps, expliquant que les parents souhaitent de plus en plus avoir des filles versus des garçons jusqu'à peu de temps. Ok, très bien. Bon, du moment que l'enfant. Est en bonne santé, ce qui est déjà un joli cadeau de la vie. On est très heureux. Durée d'exposition trop longue, pas assez de crème, baignade, il y a plein de moyens d'avoir. Pascal, tu avais vraiment pris ma réflexion sur la crème au premier degré, je vois. Parce que du coup, je m'interroge en disant, mais comment peut-on avoir un coup de soleil avec de la crème? Bon, évidemment, c'est une interrogation rhétorique, puisque tout le monde a déjà eu des coups de soleil en ayant de la crème. Et Pascal répond très sérieusement, durée d'exposition trop longue. Pas assez de crème, baignade, il y a plein de moyens d'avoir des coups de soleil avec de la crème. Ok, monsieur Dermato. Ok, Pascal le Dermato. J'adore, je t'adore, Pascal. Merci, Ruviel. Premier degré comme la brûlure. Joli. Joli. Joli, joli. Du coup, c'est un garçon? Let's go! Félicitations, Broubrou. Oui, et slip chauffant aussi. Ok. Très bien. coup de soleil aussi pour Ali. Faites attention, hein, y en a des coups de soleil. Coup de soleil aussi avec crème 50 plus et sous parasol pour changer l'habitude. Le soleil tape fort en ce moment, protégez-vous. La pilule pour homme arrive. Non, je crois pas, non. On avait eu un dossier là-dessus. Il serait temps, hein, que les hommes partagent la charge de la contraception. Hein? C'était la conclusion de ce dossier dans Libération qu'on avait lu il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans, qui m'a valu une semaine au moins de ban de Twitch. Hein. J'avais pas pu streamer pendant une semaine puisque la modération de Twitch, dans sa grande intelligence, avait estimé que ce dossier de Libération, où à un moment on voyait un couple nu entrelacé, avec peut-être même le début du zizi du monsieur, dans un article de fond donc sur la contraception masculine, était quelque chose vraiment totalement indécent sur Twitch, où on sait que la qualité du contenu, par ailleurs, fait que ce genre de contenu n'est absolument pas tolérable. Une semaine de ban à l'époque, quand même. On avait bien ri. On avait bien ri. Jifu se rappelle Iron Deal. Incroyable ça. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Quel spectacle. C'était bien moqué de la modération de Twitch à l'époque. Je les avais appelés pourtant. Ils ont dit, les gars, vous pouvez pas. Ouais, mais tu sais, on est un peu con. Ouais, bah ouais, je sais. Non, ils avaient pas dit ça, mais ils auraient dû. Qui en vacances? Quoi? Maju Prodga. Qui en vacances ici? Moi, perso, 74 jours avant ma reprise. 74 jours avant ma reprise, c'est quoi ces vacances? Je peux partager une petite fierté personnelle, bien sûr, Clémifal. Je suis trop contente parce que je passe dans Slam aujourd'hui. Tous sur Slam aujourd'hui. En plus, c'est juste avant Question pour un champion. Première expérience incroyable. On continue de travailler sa culture générale pour faire Question pour un champion dans quelques années. Clémifal, trop bien. Bon Slam, mon ami. Pascal, quand t'es vraiment premier degré, parfois tu me fais rire et parfois tu me fais peur. Pascal qui n'a pas lu. Pascal qui n'a pas lu. Tu n'as rien lu sur ce dossier qui est un dossier très compliqué, ce n'est pas possible, tu ne pourrais pas écrire cela. Donc nous, on a lu ce dossier sur Libération qui est assez complet, qui explique globalement la charge de la contraception, la pilule, le stérilet, etc. Et ta charge globalement de la femme dans la société occidentale et notamment française, et que l'homme, à part à mettre un préservatif de temps en temps, il fait pas grand chose, surtout dans un couple où le préservatif n'est plus utilisé pour se prémunir des MST, par exemple, un couple monogame, on va dire, et où là, la charge de la contraception est à la charge à 99% de la femme. Et Pascal écrit, Pascal, t'es très en forme ce matin, statistiquement, le coût des capotes est souvent à la charge intégrale de l'homme. C'est un sketch, Pascal. Donc la charge de la contraception n'est pas à sens unique. Pascal, de Dieu. Non, je pense que c'est une vanne. Je pense que c'est une vanne. Je pense, mais il n'a pas mis de capa, hein, c'est ça qui m'ennuie, quoi. Ouais. Ah ouais. Pascal. Non, les hommes, ils achètent des capotes, donc c'est faux de dire que la charge de la contraception est à sens unique. Grillé, j'ai oublié le capa. Ok, Pascal écrit grillé, j'ai oublié le capa. Ok. Pourtant, ta phrase faisait très... Ok, bon, bénéfice du doute. Ok, bon. Ok. Oui, ça parle de capote de bon matin ici. Et on en est fiers. Merci LG031. Oui, ça met des capotes, mais pas de capa, exactement. Bien vu. Ah ! L'arsouille. D'ailleurs, Samuel, les recherches avancent pour les hommes. Côté Australie, les chercheurs ont fait des tests pour une vasectomie temporaire à base d'hydrogel injecté, méthode prometteuse. Oh, bon. Alors, excuse-moi. Je les connais, les hommes. Hein. Pardon. Enfin, j'imagine la réaction de la plupart des hommes. Les gars, on a trouvé un truc formidable qui va pouvoir, hein, comme le dit Moulbit, ça fait rêver, qui va pouvoir soulager votre compagne de la charge de la contraception. Voilà. À la place de la pilule quotidienne, vous allez pouvoir vous faire une vasectomie temporaire à base d'hydrogel injecté. C'est une méthode prometteuse. Oui, ça a l'air trop bien, on va faire ça. Non, les gars, non, sortez-nous une pilule, quoi. Ok, on fera. Là, les garçons vont faire un effort, mais pas la vasectomie temporaire à base d'hydrogène injecté. Effet... Il y a Picelle qui dit effet secondaire, c'est la diarrhée. Ouh. Même la pilule, je la prends pas, MDR, me dit Miom. Tu vois, il y a un petit travail à faire là. Bah si, il faudrait. Hein, ce serait la, pourquoi cette charge serait uniquement à la charge des femmes? Voilà. Ou alors on met de l'uranium enrichi à 60% dans les bourses. Minosika. Oui, l'uranium iranien. Bonne idée ça. Effectivement. Tiens. À l'hôpital, j'ai de plus en plus de demandes de vasectomie. Ça, je sais, Fred, que ça se développe de plus en plus, ouais. Mais là, vasectomie, à ce jour, c'est irréversible, quoi. Hein? Hydrogel injecté dans les canaux déférents, en vrai, c'est assez prometteur et peu invasif. Ouais, c'est le côté injecté, si tu veux, qui refroidit d'un coup, là. Alors, je vois pas en quoi c'est pas assez que les hommes mettent le préservatif, j'ai pas compris. Nasquito, le préservatif, l'utilisation du préservatif à des fins de contraception pour pas avoir d'enfants par l'homme, hein, dans le cadre d'un couple établi, si tu veux, hein, est très minoritaire par rapport à l'utilisation de la pilule par la femme dans le cadre du couple pour pas avoir d'enfants. Voilà. Le préservatif, c'est utilisé pour les aventures d'un soir ou de quelques soirs, ou pour se protéger contre les MST, on va rappeler, hein, c'est l'outil le plus efficace de protection contre les MST. Protection contre les MST qui, dans le cadre d'un couple, on va dire, établi, régulier et monogame, eh ben, du coup, normalement, ne pose plus trop de problème, sauf si une des deux personnes va voir ailleurs et n'en informe pas le partenaire. Et dans ce cas-là, le préservatif n'est plus le moyen de contraception utilisé dans le couple, quoi. Et c'est là où on dit que la charge de la contraception dans le cadre du couple est le plus souvent la charge de la femme. La pilule et ses effets secondaires parfois. Bah oui, merci. Oui, Coleman dit, merci Sam de faire un peu d'éducation sur le sujet. Quand je vois certains commentaires dans le chat, je vois qu'il y a un travail à faire. Hein. On est quand même parti d'un pseudo qui. Attendez. C'est un pseudo qui nous a lancé là-dessus. Hein. C'est un pseudo qui nous a lancé là-dessus. Après, combien de femmes voudront bien abandonner le contrôle sur la contraception, dit Libo, ça c'est bien ça. C'est une vraie question. Après, il y a aussi des hommes qui vont être très heureux aussi peut-être d'avoir le contrôle sur la contraception aussi. Sans rentrer dans le détail de la vie amoureuse des couples, le contrôle de la contraception, ça peut être souhaité par les femmes, mais ça peut également être souhaité par les hommes. Ah, Gilou me dit, je confirme moi le premier. Eh ouais. On a parlé du slip de contraception petite cosmique. Alors Noah ne veut pas comprendre. Pourquoi faire une pilule pour les hommes uniquement? Ça ne ferait qu'inverser la situation actuelle. Mais à un moment, vous faites exprès ou quoi? Non, c'est l'idée, c'est le partage de cette charge. Donc c'est pas tous les hommes prennent la pilule et comme ça les femmes ne le prennent plus. C'est un partage. C'est-à-dire que selon le couple, eh bien, il y aurait une discussion. Et eh ben ça, c'est toi, là, c'est moi. Ou les deux, comme ça. Sécurité maximale, ceinture et bretelles, tu vois. C'est pourquoi c'est ça me fait peur ce genre de remarque parce que t'imagines la même remarque sur le Proche-Orient, tu vois. En mode bam, tout de suite le truc radical, j'ai rien compris au sujet, je vais mettre le feu au chat quoi. On voulait pas faire un effort, hein. La responsabilité partagée quoi. Trois ans la meuf, 3 ans le mec, voilà, ça va, tout ça, voilà, par exemple. Par exemple. Ma méthode de contraception fonctionne très bien, en tout cas, être seul. Alors là, Mouto, c'est vrai que là, je crois qu'on n'a rien inventé, je crois qu'on n'a rien inventé de plus efficace avec le moins d'effets secondaires, quoi. Là, on est d'accord, quoi. Waouh. Là, on rentre vraiment dans un débat de spécialiste. J'aime le tour que prend ce stream. Fifi Brin de Folie, premier message et de qualité dans cette communauté. Vous savez où ça en est, l'anneau contraceptif masculin, méthode indolore, inoffensive, non intrusive. Pour info sur la méthode de fonctionnement, l'anneau rapproche les testicules du corps, ce qui les réchauffe et par conséquent les spermatozoïdes ne sont plus viables, c'est plutôt une bonne option. Oui, c'est un peu le slip qui remonte les bourses aussi qui fait ça. Incroyable, incroyable. Ce stream démarre sur les chapeaux de roue, ouais, et pas que sur les chapeaux de roue, ouais. Ouais. Oui, alors Diesel, non, ça va pas être possible, ça. Hein? Diesel, je ne peux pas lire ton message, hein. Il y a des enfants, là, je suis sûr qu'il y a des enfants qui sont déjà en vacances, là. Hein? Je ne peux pas lire ce genre de message. Bon, hein? Non, ça va pas être possible, ça. Les mecs dans le chat ont les boules. Pas tous les mecs, déjà, mais je valide la blague. Les mecs ont les boules. Oui, c'est ça. Ah, Alexandra me rappelle que Libération, le dossier sur la contraception masculine et le partage de la responsabilité de la contraception au sein du couple, m'avait valu 2 semaines de ban à l'époque. Qui dit mieux? Merci Alexandra. Bravo Twitch. Merci Sir Chorao. Oui, Randy, on a compris. On a compris la blague de Diesel. C'est pas la peine d'en rajouter dans. Vous êtes chaud là. Oui, 2 semaines de ban, ouais, 2 semaines de ban, ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr que là on est dans la modération de qualité là. Ouais, 2 semaines on avait pris, ouais, 2 semaines. L'article montrait le début pour être. Pascal dit j'ai raté cet épisode. L'article montait un pubis ou quoi? L'article montait une photo d'un couple amoureux enlacé tendrement et si on faisait attention, on voyait la base, le début de la base de la donc côté corps quoi. Pas côté gland du sexe de l'homme. Voilà. Et bon, je feuilletais Libération, quoi. Tu lis Libération, c'est pas. Je sais pas, citez-moi un magazine porno, je n'ai pas beaucoup de qu'est-ce qu'il y a comme magazine porno? Bref, c'était pas un magazine porno, je feuillette Libé, quoi. Tu vois, je feuillette Libé, quoi. Playboy, c'est porno? Bon. Bon. Playboy, bon, voilà, Playboy, tu feuillettes pas Playboy. Challenge, c'est quoi ça? C'est pour nous ça? Union? Valeurs actuelles? Ouais, bon voilà, tu feuillettes Valeurs actuelles. Bon, ça, tu sais que c'est un contenu problématique, Valeurs actuelles. Bon, tu fais attention. C'est-à-dire qu'avant de montrer les pages de Valeurs actuelles, tu regardes d'abord, quoi. Tu sais, t'es prévenu, tu connais. Mais Libération, tu feuillettes. Et à un moment, t'as le début d'une teub. Qu'est-ce que tu veux? 2 semaines. Elle est bonne, la blague de Valeurs Actuelles. Je sais pas qui me l'a soufflé, mais elle est bonne. Bon, je vous quitte à midi parce que j'ai un rendez-vous. Rendez-vous de travail. Oh, on peut lire Playboy pour les articles. Oui, bien sûr, Boletin. Bien sûr, le fameux abonné à Playboy pour les articles. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Le fameux Playboy qu'on lit pour la qualité des reportages. Bien sûr. Quand les pages sont pas collées, bien sûr. Excusez-moi. Donc, on fait un petit sommaire. Ouais, j'ai un rendez-vous à 12. Ouais, je m'en vais. J'ai un taxi à 12h qui m'emmène vers un rendez-vous de taf. On lance le sommaire. Ça existe encore Playboy? Je sais pas du tout, Dodo. Je sais pas du tout. Ça va déraper vite l'actu. On y va. On y va. Ok, je vous fais un petit sommaire. Est-ce que j'ai votre go? Merci, Sir Chorao, pour le 21e mois. C'est un bon exercice d'articulation, en fait, de lire les pseudos ici. Parce que parfois, c'est bien pour question pour un champion. C'est parti? Ok, allez, sommaire. Je vous donne l'essentiel de l'actu. Après, de développer tout ça. Il fait chaud, là, vous n'avez pas échappé. Eh ben, let's go. On va parler de ça, de chaleur et de climat. Boum, c'est la une du Parisien, notamment ce matin. De plus en plus étouffant. Une bonne partie de la France est en alerte canicule aujourd'hui, vendredi. Les coups de chaud se multiplient, comme le montrent les relevés météo depuis 30 ans que nous avons compulsé, et ça va durer. L'inéluctable surchauffe de nos étés, voilà, on lira ce dossier dans Le Parisien, en 6 points, réchauffement global, variations annuelles, de rares records anciens battus, de plus en plus de jours torrides, des vagues de chaleur qui se multiplient. En ville, c'est encore pire, un avenir pas si tranquille. Voilà un gros dossier. Voilà, puis ils sont allés au Hellfest pour voir qu'au Hellfest, il fait chaud. C'est à l'une du Parisien. On ira un peu plus loin avec, je crois, un article dans Libération, page 11. Vous voulez des mauvaises nouvelles? J'ai des mauvaises nouvelles pour vous. En été, il fait chaud, truc de fou. Merci, Coy. Voilà, on sent le prochain commentaire sur le réchauffement climatique. Rien à voir avec l'activité humaine. Ce sont des cycles. Il y a des cycles chauds, il y a des cycles froids. Vas-y, tu as commencé à écrire, on l'attend. Donc, je vais page 11 dans Libération. Tu sais, j'ai tout vu, moi, sinon, dans ce chat. Donc, je préchote tous les commentaires. Hein. Voilà. Et pourquoi vous critiquez Trump, hein? Vous êtes américain? Voilà, ça, on peut avoir ça aussi. Canicule en France, l'été à brûle pour point, dossier dans Libération. L'Hexagone s'apprête à passer son premier épisode caniculaire de l'année avec un solstice d'été qui pourrait être l'un des plus chauds depuis près d'un siècle, selon les prévisions. Voilà, on est loin de « Ah, c'est l'été, il fait chaud, bravo ». Une fournaise rare mais pas inédite, alors que le dérèglement climatique rend ces épisodes plus intenses et plus fréquents. Mais ça, pour l'entendre, encore faut-il savoir lire. Ce que je voulais vous lire, c'était surtout ça, rester sous le seuil des 1,5 degrés, hein, d'augmentation des températures moyennes, eh bien, ça n'est désormais plus atteignable. C'était pourtant l'objectif des scientifiques, hein, de toutes de tous les rapports du GIEC, de toutes les COP. Eh bien, c'est raté, on n'y arrivera pas en raison de l'inertie de la société. Quand on voit certains commentaires dans le chat, ça surprend guère. Il n'y a que ça à dire dans les infos, sérieux ? T'as un missile, tu veux qu'on parle du PSG ? Tu veux que... C'est quoi le... On va tous crever parce qu'on s'occupe pas des changements climatiques et tu veux qu'on parle de quoi? Toi, je fais une pause là. Si tu veux qu'on parle de l'Iran, j'en parle tous les jours pendant 2 heures à peu près. Hein. Si tu parles du Proche-Orient, ça fait 5 ans que j'en parle tous les jours. Et je vais encore en parler tous les jours. Tu veux qu'on parle... Attends, non, j'attends. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, Misty Dark?
Moi, j'attends.
Là, je voudrais qu'on m'explique. Basket, hand. J'attends. Moi, j'attends. Là, je veux savoir. Misty. La foire à l'abricot. Un peu de fléchette. Non, mais Misty Dark, j'ai jamais parlé de l'Iran. Bah, tu viens de nous dire, est-ce qu'il n'y a pas plus important dans l'actualité? Alors, j'attends. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Misty Dark, qu'est-ce qui te semble plus important que ce matin, les changements climatiques? J'attends. Non, mais ça, c'est bien de dire des conneries, mais à un moment, il faut assumer après. Juste avant, je disais qu'ici, en Polynésie, c'est l'hiver. Enchaînons. Donc, voilà, la mauvaise nouvelle ce matin, c'est que l'objectif des scientifiques, hein, ça fait des années, sinon des décennies qu'ils nous alertaient là-dessus, hein, sur le fait de limiter l'augmentation globale des températures à plus 1,5 degré, eh bien, désormais, ça n'est plus atteignable, cette officielle. Passons, je crois qu'on a eu la réponse à notre question sur qu'est-ce qui pourrait être plus important aujourd'hui. Par exemple, parler de la Polynésie française et de la météo de la Polynésie française, puisque le commentaire qui vient d'être lu montre que les gens parfois confondent encore météo et climat. Et ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail. Let's go. Donc on lira ça ce matin. On parlera de l'Iran, bien sûr, hein, qui est sujet dont je vous parle tous les jours. Et comment ne pas en parler, bien sûr, avec la question d'une intervention américaine éventuelle. On a déjà parlé hier. Est-ce que les États-Unis vont rentrer dans ce conflit? Page 6 dans Le Parisien. Trump, la guerre et le show. Le président américain joue de sa menace de diligenter des frappes sur Téhéran, même si on a vraiment speedrun les 1,5. Alors, Taïa, on est dans le sommaire. Attends. Je pense que tu ne connais pas ce rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, j'annonce ce dont je vais parler. Alors, je l'écris en très gros, en cap, et on va l'épingler. C'est comme ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le principe de la revue de presse. Alors, on est dans le sommaire. Donc, Trump, la guerre et le show. Le président américain joue de sa menace de diligenter des frappes sur Téhéran, même si ce jeudi soir, il affirmait se laisser du temps avant de décider. Bon, le problème de Trump, c'est qu'il est capable de tout, quoi. Voilà. Et si les États-Unis attaquaient ? Peuvent-ils entrer en guerre, les Américains ? Que viserait une attaque américaine ? Quelle riposte pour Téhéran ? Sommaire ou sommeur ? Joli, quoi. Là, oui, encore un capa oublié. J'en peux plus des capas oubliés. Maintenant, vous mettez vos capas, sinon ça dégage. La région peut-elle s'embraser ? Voilà. Donc, est-ce que ça va nous faire une guerre du Golfe version 2 ? Demande Léna. Enfin, une bonne question sur l'actualité. Merci beaucoup. Salut Défécateur. Il s'est barré du G7 pour soi-disant... Oui ! Jolie remarque de Défécateur officiel. Notre ami allié dans la lutte des fake news, des mauvaises informations sur Internet, chaîne YouTube, chaîne Twitch. Il s'est barré du G7, Trump, pour soi-disant agir vite, et ça fait une semaine qu'il hésite exactement. Oui, c'est l'excuse qu'il a donnée. Je me barre du G7 parce que j'ai un conflit important à régler. Moi, l'homme important qui sait régler les problèmes importants. Bon, en fait, il n'y arrive jamais au niveau international, vous le savez. Et ça fait une semaine qu'il hésite. Bien, bien vu ça. Bien vu. Merci Canix pour le prime. Donc, réchauffement climatique, Trump, et non, je ne parlerai pas, play down, de la promo Carrefour sur le saumon entier. Ça n'est pas prévu. Ça n'est pas prévu. Vous êtes coquins ce matin, vous êtes un festival de bêtises, j'adore. Ok. Donc, Iran. Iran et... Non mais arrêtez. Quoi, un saumon entier ? 8 euros ? Non, Clément, 7,99 euros. Arrêtez en vrai. Arrêtez. C'est pas parce que les journaux mettent un peu de pub qu'il faut. Trop bien le saumon. Mais non, c'est pas une OP saumon. Quoi ? En tataki, ça claque le saumon ? Oh. Comment ça ? 7,99 euros le saumon ? Oh waouh ! Quoi ? Mais 7,99 euros quand même ? Trop chaud pour du saumon cuit ? Oh bah non. Je file à Carrefour à plus ? Mais sérieux ? J'en peux plus. Je vais jouer à Valorant. On parlait des rythmes scolaires ce matin. Ça, c'est vraiment le serpent de mer. Mais moi, ça fait 30 ans que j'ai des papiers sur le rythme scolaire. Il faut changer les rythmes scolaires. C'est urgent de changer les rythmes scolaires. Il faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Et blablabli, et blablabla. Et puis, il se passe jamais rien. J'adore. Ça, c'est vraiment, ça me fascine. Ah, c'est reparti. Rythme scolaire, le mercredi, samedi, le mercredi. Libé. Semaine courte, journée longue, grandes vacances. Le prochain qui me parle de papillotes de saumon, ça va faire chier. L'organisation en France du temps scolaire pénalise les élèves. Ok, je crois qu'on le dit depuis qu'on a inventé l'école, ça. Hein, le débat qui revient sous la forme d'une convention citoyenne promet d'être passionné. Ok. Enfin, moi, je vais être calme sur le sujet, hein, parce que ça fait longtemps que j'entends parler, ça. Les rythmes scolaires bouffent les petits écoliers, ouais. Ouais, comme d'hab, quoi. Alors, il y a une nouveauté, lancée ce vendredi, donc aujourd'hui, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant devrait poser la question des rythmes scolaires qui éreintent les élèves français. Voilà. Et réactiver le vieux, merci Libération, le vieux débat de la semaine de 4,5 jours, abandonné par plus de 90% des communes. Ok, je vous fiche mon billet que quand je vais mourir le plus tard possible... Dieu m'en préserve, on n'aura toujours pas avancé sur ces sujets-là, quoi. Enfin bon, je suis un peu pessimiste. Voilà. Donc c'est la une de Libération. Je crois que c'est la une de La Croix aussi. La Croix, où es-tu, La Croix ? Eh ouais, enfin trouver le bon rythme. Ah ben ça m'intéresse plus, Guilor. Petits écoliers, chocolat au lait ou noir ? Voilà. Ça oui. Là, c'est peut-être un débat qu'on peut trancher maintenant. Le débat sur les rythmes, on en reparle dans 30 ans. Hein. Moi, je dis au lait, moi. Comment ça, blanc ? Ça existe, ça, blanc ? Ah non, noir, non. Lait, noir. Café Calva pour les gosses. Ça, c'est un normand, ça. Ils sont barjots et normands. Les petits enfants n'ont même plus le temps d'aller faire les foins. Oh là, ça me parle, Matt Delon, ça. Mais est-ce que les enfants mangent des papillotes de saumon Carrefour ? Chiozan, stop, je vous demande de vous arrêter. Noir avec un chamallow dedans ? Ok, Alors quelqu'un vient de me dire noir c'est mieux parce qu'il y a moins de sucre et quelqu'un me dit oui on va mettre un chamallow dedans. Ok. On parle oui. À quand le retour alors à quand le retour du vin rouge à la cantine? Bacchus, très bonne question. Moi président de la République hein, parce que je vous rappelle que c'est un projet un peu secret que nous partageons au sein de cette communauté de préparer ma candidature à la présidentielle 2027. Vos idées sont les miennes, la France est tienne, etc. etc. Petite campagne électorale façon guerre éclair sur les réseaux sociaux à base de clips TikTok. Hein, aucune interview acceptée pour pas être mis devant mes contradictions, bien sûr. Jamais je n'accepterai une invitation de Léa Salamé aux 20h de France 2. On en parlera bien sûr de Léa Salamé tout à l'heure. Voilà, et pourquoi je vous disais ça? Moi, président, retour du vin rouge à la cantine. Pour les adultes. Je dis vin rouge obligatoire pour les profs et les enseignants, les enseignantes à l'école. 1 litre par prof. Tous les jours. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi? Pourquoi? Bah parce qu'après, le prof, il est plus étanche. Il sert à rien. L'après-midi, fini les maths. Le français, l'orthographe, l'histoire géographique, que sais-je. Non, ça ronfle, ça pionce, hein, ça cuve sur la chaise. Et l'après-midi, les enfants détente. Ça dessine, ça discute, ça fait un peu de sport, ça chill. Voilà. Moi, je te règle le problème des rythmes scolaires très très vite, moi. Le matin, ça bosse, normal, le prof est à jeun. Le midi, le coude rouge. Voilà. Et l'après-midi, on chill. C'est pas compliqué, hein. Et puis voilà la bonne, voilà le débouché pour les producteurs de vin français. Et hop là, parce qu'en plus j'imposerai du vin français moi. Père Benoît, l'ami du foie, tout ça. Hein. Et oui, fini les antidépresseurs pour les profs. Tu vas voir que ça va susciter des vocations. Hein. Présente-toi en 2027. Mais c'est prévu par l'eau. C'est prévu, c'est prévu. Et oui. Et pour les profs qui n'aiment pas le pinard, toujours à mégoter, à ergoter. Eh ben, ils boiront, je sais pas, de la vodka, ou je sais pas, ou de la bière, c'est très bon la bière. Je vais devenir prof, tu m'as convaincu. Voilà, et en plus, on vient de régler un autre problème, le problème des vocations. Hein. Enseignant, c'est un métier qui suscite de moins en moins de vocations. Voilà. Le Ricard aussi, bien sûr. De toute façon, il y a des études scientifiques là-dessus. 1 litre de rouge par jour, ça n'a jamais tué un chat. Hein. Un homme peut-être, mais un chat, non. Voilà. Samedi 2027, je vous le rappelle. Donc, c'est la une de la Croix. En France, trouver le bon rythme. Une convention citoyenne s'ouvre aujourd'hui pour travailler sur les temps de l'enfant, dont les rythmes scolaires souvent inadaptés. Voilà. Une convention citoyenne pour tout remettre d'équerre. Qui y croit? Allez. J'essaie d'être optimiste, mais qui y croit que ce débat vieux, vieux de vieux de vieux de vieux va être réglé par une convention citoyenne? Je veux bien être optimiste, bordel, mais je veux à un moment. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces, quoi. Hein, ouais, bah ouais. Bon, enfin bon, allez, on va faire mine d'y croire, ok? Le temps de la revue de presse. On fera un sommaire là-dessus. Pascal, t'es très en forme ce matin. Pascal, tu es déchaîné ce matin. Toi, le litre de rouge, c'est pas le midi, hein. Coquinou, va. On fait chabreau, hein. Le matin avec le croissant, c'est ça? Ah, ça faisait longtemps, Vorona Circus. L'alcool est un gros problème, il ne faut pas se moquer. Ah, ça faisait longtemps. Bah, depuis hier. Toujours bienvenue. Alors, la Croix. Tu te lasseras avant moi. Hein. Oh, là par contre, je dois devenir sérieux. Là, je suis sur lesquels je ne veux pas plaisanter. Le Monde. Hop. Ne bougez pas. Parfois, le monde est un peu capricieux. Je vais page 12. Là, on est sur quelque chose de sérieux et de dont il faut parler ce matin. Hop, une capture d'écran. J'ai l'impression que le monde est chafouin ce matin. comme vous Vorona Circus, mais qui est chafouin tous les jours. Donc là, c'est juste ce matin pour le monde. Vorona, demain matin, il sera chafouin aussi. Il est où elle, d'ailleurs, je sais pas. Peu importe. Hop. Alors, la capture d'écran. Voilà. Et je pense que je vais aller vous le faire en capture d'écran. Ah, si, ça marche. Ça y est. Non, toujours pas. Je vous montre. Alors, regardez cet article de fou. Voilà, dans le monde. Médecin accusé de violence sexuelle, l'inertie du conseil de l'ordre en question. L'affaire Joël Le Squarnec, voilà, a mis en cause les institutions de santé qui n'ont pas empêché ce chirurgien à hauteur de centaines de viols sur des enfants d'exercer. D'autres affaires posent la question de l'efficacité de sa justice. La justice interne au médecin, hein, le conseil de l'ordre, on lit le dossier et on se rend compte en fait que bon, bah, ce conseil de l'ordre, comment dire, en matière de violence sexuelle commise par donc des médecins, il est, comment qualifier, il est pas très efficace, pas très concerné, pas très réactif, pas très net. Voilà, donc on lira ça. Ouais. Merci Mélanie, Nouveau Média. Merci Ivory, 62, tu vas bien? Merci pour le 44e mois. Il est corporatiste aussi, ouais. Et il est laxiste, exactement. Il n'est pas très contre, voilà. Il n'est pas très utile non plus, ouais. Exactement. Pas que pour les médecins. Tu veux dire, Samoussa, le conseil... Là, on parle du conseil de l'ordre, on parle pour les médecins. Hier et avant-hier, on parlait des violences policières aussi. À côté de la plaque, ouais. Ivory, très bien, merci. Voilà. Donc, ce dossier me semble important. Là, par contre, la zéro blague, là, on sera sérieux. Oh, vous avez entendu parler de cette histoire? Le gars, là, le mec de l'usager de la SNCF qui s'est pris une amende de 100 euros pour un problème de 10 centimes sur son billet. J'ai vu ça partout sur les réseaux, l'article. Le Parisien fait un article là-dessus. Verbalisé pour une différence de 10 centimes sur le prix de son billet. Julien, beau gosse Julien, a reçu une contravention de 100 euros lundi pour un billet de TER acheté 5 euros au lieu de 5,10 €. Alors il s'est un peu énervé, là, je crois qu'il n'a pas voulu donner sa carte d'identité, il a dit qu'il ne paierait pas les 10 centimes parce qu'il trouvait que c'était... Voilà. Il a été verbalisé pour outrage à agent et risque une autre amende jusqu'à 7 500 balles. Incroyable. Incroyable. Sachant qu'en fait, il était avec sa compagne, il faisait un voyage entre la Gironde et Paris. Et voilà. Et donc, en fait, il y avait un billet TGV et il y avait un billet TER aussi. Un billet TER pour lui permettre de gagner la gare TGV. Donc, il y avait un billet TGV qu'il a payé, il n'y avait pas de problème. Et le billet TER, qui est une partie de son billet, coûtait 5 euros par personne. Voilà. Voilà. Et en fait, donc, il a pris le bon billet. Et il a, sauf qu'il a pris un train plus tôt que celui qu'il avait réservé, ce qui est autorisé par la SNCF pour les TER. Voilà. Sauf qu'il n'a pas vu que le billet qu'il avait acheté, il était dans le cadre d'une promotion. Voilà. Il n'avait pas fait attention. Et la promotion, en gros, a amené à baisser le billet de 5,10 € à 5 euros. D'habitude, il paye 5,10 €. Là, il a payé 5 euros, il n'a pas fait attention, il y avait une promotion. Voilà. Or, la promotion lui empêchait de changer de train. Les cons! Allez, cette CF! Et la contrôleuse, elle était en mode, ok, 50 euros chacun d'amende. Voilà, donc lui, le mec s'est étranglé, il a dû un peu s'énerver. Voilà. Après, il a été attendu, du coup, la contrôleuse... comme il ne voulait pas donner sa carte d'identité, a prévenu. Il a été accueilli, le monsieur là, sur le quai par 5 agents de la sûreté ferroviaire. Et ensuite, par la police nationale. Ouais. Voilà. Alors, pardon, je ne veux pas... Le mec s'est peut-être emparté, s'est peut-être un peu énervé verbalement. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais messieurs et dames de la SNCF, là, la direction, il faut peut-être sensibiliser vos contrôleurs à une forme de... comment dire, à une forme de... Comment ça? Voilà, Klamakin dit d'intelligence, je dirais de souplesse. C'est pas un métier facile non plus, contrôleur, hein? Mais là, franchement, de bon sens, oui, voilà. Tu vois? Franchement, quoi. Bon, voilà. Bon, après, peut-être que le ton est monté, mais bon, je sais pas. Il y a un truc, y a un truc qui va pas là. Bon, voilà, on verra cette histoire tout à l'heure. Les contrôleurs, ils se prennent trop pour des gendarmes. Tout le temps, ils sont hyper désagréables, jamais patients. Alors, ça arrive, non, c'est pas vrai. Aucune généralité, parce qu'en fait, moi qui prends beaucoup le train, c'est mon moyen de transport préféré. Je kiffe le train, moi, je suis un kiffeur du train, moi. Ben, des contrôleurs, à 70-80%, ils sont charmants et gentils et drôles même. Et voilà. Mais il arrive que il y a une minorité, moi de l'ordre de 10%, peut-être moins, qui effectivement sont parfois dans le ton, dans le comportement un peu cow-boy. Voilà, c'est vrai. C'est déjà beaucoup 10%. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'ils ont des primes pour les contraventions. Alors, j'avais entendu ça. On va vérifier cette info parce que ça m'intéresse. Parce qu'effectivement, s'il y a un système de primes, plus ils mettent de contraventions, plus ils sont payés, forcément. On va regarder ça. Là, j'ai un article du Mac de la Conso. Oui, les contrôleurs de la SNCF touchent bien une prime sur les amendes perçues, selon le Parisien qui a révélé cette information en début d'année. Je sais pas quand a été écrit l'article, on peut aller voir. Ils perçoivent 4% du montant de l'amende quand celle-ci est réglée immédiatement à bord par le voyageur. Ah, le mec, il n'a pas voulu payer là. Donc, ouais, c'est effectivement, on est dans ce cas-là. Quelle est la commission? Ah, ouais. Ah, ouais, on est sur 4%, ouais. Il y a un truc, ouais. Ah oui, c'est non, c'est un article de cette année. 4% du montant de l'amende quand celle-ci est réglée immédiatement à bord par le voyageur. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent bien qu'on paye tout de suite. D'accord, ok. Ah, c'est peut-être. Ouais. Du coup, ça participe peut-être de ça, ouais. Oh, puis c'est aussi une question de. Voilà, des questions de formation. Comme tout métier, hein. On connaît tous. Une boulangerie géniale qu'on adore, mais le patron, la patronne, ou le vendeur ou la vendeuse sont hyper désagréables. Bon, et tu dis, bon, c'est pas grave, je viendrai plus acheter ton pain parce que tu t'es désagréable. Bon, ben, dans tous les métiers, il y a des gens sympas, des gens moins sympas. C'est pas complètement déconnant de se dire qu'il y a 10% des contrôleurs de la SNCF qui sont pas sympas. Hein? Est-ce que c'est pas vrai pour tous les métiers, ça? Hein? Voilà, donc on lira rapidement cette histoire. Et puis, on finira avec quoi? On finira avec Léa Salamé, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est important ou pas? Je sais pas. Moi, je dirais pas trop en vrai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, bon, c'est de l'actualité médiatique. Les médias qui parlent des médias, je suis toujours un peu embêté. C'est un peu très nombriliste comme exercice. Mais bon, et puis, je ne sais pas si vous êtes très nombreux à regarder le journal de 20h. Hein, puisque j'ai vu un chiffre ce matin. Donc là, par exemple, le Parisien met ça en une, par exemple. Bon, bah, moi, par exemple, je trouve que c'est pas une actualité de une. Léa Salamé, reine du 20h. Ça, c'est en une. Voyez. Et puis, il y a deux pages, page 26, 27. Voilà. Moi, je trouve que c'est trop, personnellement. Ce matin, j'ai vu un chiffre comme quoi la moyenne d'âge des spectateurs du 20h de France 2, c'était autour de 60 ans. 60 ans et plus. Donc, je ne suis pas sûr que vous soyez globalement très concerné. Mais il y a quand même deux pages dans le Parisien. Hein. Donc on lira pour avoir les infos, parce qu'il y a des questions, notamment sur le fait que son époux pourrait être candidat à la présidentielle, des choses comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'un journal, donc le Parisien par exemple, met ça en une et consacre deux pages à cette actualité. Et si vous allez voir un journal comme La Croix, hein, pour vous montrer que ben, tous les journaux n'ont pas la même ligne éditoriale, journal La Croix, page 19, on parle aussi. Vous allez voir. Tout en haut à droite là. Voyez les différences de traitement? C'est intéressant ça. Là, on est dans l'illustration de ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Vous avez un article comme Le Parisien qui met ça en une en disant ouais, c'est une des plus gros, c'est une des pr... mettre une actualité en une, ça veut dire on pense que c'est une des plus grosses informations du jour. Et on y met 2 pages. Et La Croix, bon, c'est pas en une, et ils en font ça, le petit truc en haut à droite là. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Tous les médias n'ont pas la même ligne éditoriale. C'est un exemple. Il y a même des journaux qu'on parle pas du tout ce matin, par exemple. Voilà. Rachida Dati, alors on a parlé longuement hier, Voodoo Cry. Tu l'as en replay, effectivement, c'est intéressant aussi. Non, j'ai pas trouvé l'article Gaspacho, mais je vais le trouver, t'inquiète, hein, sur le numerus apertus. Alors, pas dans la presse écrite, hein, je pense, chez les médecins, hein, je pense. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, pardon, toi pour moi, j'ai compris. Mais je te trouverai ça. Du coup, tu as les bougies, Sam. Quelles bougies, Koukouros? Les bougies de quoi? C'est bien sûr qu'on va parler de l'Iran, Sergius, qui vient d'arriver sans doute. Petit coucou de Norvège qui fait plaisir. Quelle météo il fait chez vous en Norvège là? Knobinette. Merci Yann pour le 45e mois consécutif. Ouais, l'Iran, on va en parler bien sûr, évidemment. Tu as vu l'extrait où Dati s'en prend à Cohen lorsqu'il lui parle de ses affaires judiciaires? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Il y a même eu un communiqué de la SDJ, la Société des journalistes de Libération, de France Télévisions, qui dénonce le comportement de Madame Dati vis-à-vis des médias. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Pas l'article ce matin. On aura peut-être. Je ferai peut-être une revue de presse samedi. Non, c'est pas sûr. Bon, je verrai. 20 degrés en Norvège, me dit Pinguiné qui est en Norvège aussi. 20 degrés, on est bien. Ah oui, je suis en question pour un champion samedi, putain. Non, c'est sugar. C'est vrai. Ronwek, bonjour Sam, comment est-ce que tu choisis de découper le temps que tu accordes à chaque sujet? L'Iran, la Palestine, Israël, on pourrait en parler 5 heures par jour, de même pour d'autres sujets, mais il faut bien traiter tous les sujets. C'est toute la difficulté, Ronwek, c'est au doigt mouillé, c'est au feeling. On pourrait choisir que du Proche-Orient tous les jours, 3 heures, parce qu'on estime que c'est le sujet le plus important. Je pourrais le faire. Alors j'en parle énormément. Bon, l'Iran, par exemple, ces derniers temps, c'est facilement 1 heure à 2 heures par jour. Mais il y a tellement d'autres sujets. Ce n'est qu'un regard imparfait, parcellaire sur l'actualité tous les jours, ce que je vous propose. C'est vraiment très subjectif et il faut le prendre comme un exercice très subjectif. Il y a plein d'articles dont j'ai envie de vous parler, dont je ne vous parle pas, par manque de temps. Voilà. Il y a plein d'actualités aussi qui ne me touchent pas, mais qui peuvent vous toucher vous. Voilà. Donc, oui, au doigt mouillé, vous ne connaissez pas l'article? Ça n'existe pas, au doigt mouillé? Au doigt mouillé. J'ai peut-être inventé ça. Hein. Familier, approximativement au pif. Voilà, c'est ça. Ah, c'est familier?
Ok.
Y a pas. Le Larousse nous parle pas de. Non? Ok. Voilà. Expression de l'expression. Origine de l'expression. Voilà. Au doigt mouillé, elle viendrait du vocabulaire maritime. Où lorsque les instruments de mesure n'existaient pas, les marins mouillaient leurs doigts et le levaient en l'air pour connaître le sens du vent. Moi, je fais ça en plus. Quand, je sais pas, à l'époque où je faisais un peu de surf, par exemple, je voulais savoir d'où venait le vent, ben, je faisais ça. Les marins mouillaient leurs doigts et le levaient en l'air pour connaître le sens du vent. Parce il y a un côté du doigt, le côté du doigt où ça souffle, du coup, il devient frais. Enfin, je vous fais pas parce qu'après, ça va partir sur. Je vous fais pas le geste, mais après ça part sur les réseaux en mode oui, Samuel Etienne fait des doigts à sa commu, ça je connais, je sais comment ça fonctionne, donc je vous ferai pas le geste. Et là tu prends ton index ou ton majeur et tu mouilles, tu mets en l'air et le côté frais, c'est le côté d'où vient le vent. Voilà, je vous le fais pas là, parce que je sais ce qui va se passer. Ouais. Bah, dès que tu as besoin de savoir le sens du vent pour du sport notamment, ouais. Ah, les rugbyman le faisaient pour les transformations, les pénalités, ouais. Je suis pas surpris, ouais. Ok, bon moi je crois que les amis, on a fait le sommaire, donc on peut y aller. Vous êtes prêts? Ok, bon on va pas commenter le message de Lucky 13 là. Êtes-vous adepte du doigt mouillé? Ok, les sondages sur cette chaîne n'ont aucun sens, j'adore. Je ne commenterai pas. Ouais, je sais pour le Nightbot, Alexandra. Je ne commenterai pas. Bon, vous savez, on va l'activer tout de suite. Je ne commenterai pas le message de Lucky 13. Pour savoir d'où vient le vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Bon, je ne veux pas commenter, quoi. Voilà. Alors effectivement, il y a un nouveau best-of que j'ai pas mis, que j'ai pas actualisé sur Nightbot.
Mais tu regardes les trucs chelous, hein.
Voilà, il est là. On peut aider le début pour rigoler. Moi j'aime bien. C'est Mathieu qui fait des best-of hebdo de ce qui se passe ici. Je l'ai même pas regardé celui-là encore.
Mais tu regardes les trucs chelous, hein. Pourtant ils ont fermé ces sites-là récemment.
Ah oh oui, j'ai remarqué ça. Oh non, non.
Oups. La boulette.
Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Non, j'ai lu un article là-dessus. J'ai lu un article là-dessus que certains sites étaient plus accessibles.
On vise le radiant ce soir, bien sûr. Imaginez le jour où je deviens silver. Comment je vais me mettre tout nu à courir sur les Champs-Élysées.
J'ai arrêté le sucre aussi totalement. Voilà, je suis en train de me faire un summer body. Ça se voit, Sam, il a un gros zizi. Body Niros. J'arrive.
Ouais, ce qui est intéressant sur Twitch, quand vous êtes à la télé, les gens peuvent pas réagir, peuvent pas commenter. Et peut-être qu'il y a des gens en regardant Question pour un champion qui se...
Je l'avais pas vu ce best-of, c'est une masterclass.
Ils disent, mais ça se voit ça, mais il a un gros zizi. Mais ils ne le disent pas, ils ne peuvent pas le dire, je ne peux pas le lire.
Ça en fait du monde.
Quoi, Teutonique, c'est ça?
Ouais, ouais.
C'était pas une danse à l'époque, ça?
Oh là là, les chevaliers teutoniques. Là, t'as vraiment fait une peinture teutonique.
Désolé.
Il a osé.
Je me dis qu'au Louvre, fallait que je la fasse.
Ah ouais, ouais, non, mais en vrai.
C'est bien le Louvre.
Je crois que c'est un mythe, en fait, y a pas de verre. Hein. Je vais mourir d'insolation, mais pas de verre.
Tiens!
Ah. Je te vois qui court. Ah!
Oh, c'est bon! Oh,
waouh!
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 C'est incroyable!
Excellent, c'était bien ça.
Il m'a bien bouffé là. Je suis dans une dimension alternative là.
Et tu vois quoi? Tu vois quoi?
Je sais pas, j'ai l'impression d'être au paradis là. Je suis à poil devant un mec. Je suis à poil devant un mec.
Et un bon fantôme Requiem qui dit: j'avais vu des photos de camionneurs qui étaient plus vieux, plus vieillis côté fenêtre. Mais j'ai pas vérifié si c'était du fake. T'imagines? C'est pas du fake, me dit-on. C'est vrai. Oh, c'est incroyable. Regarde sur Google. Let's go. Un chauffeur routier. Bon, on va pas le regarder en entier parce que sinon on va y passer la revue de presse. C'est pas très long en plus. Hein, ça fait 7 minutes. C'est chaque semaine. Hop. Attends, il faut juste.
Ils ont passé 28 années.
Il faut juste que. Hop. Chaque semaine, il faut juste que j'actualise Nightbot du coup. Hop. Si vous faites point d'exclamation best of, vous l'avez. Sauf que là, pour l'instant, si vous faites ça, vous avez le best of de la semaine d'avant. Voilà. Et là, je vais actualiser pour que vous ayez le dernier. Nightbot, let's go. Dashboard. Commande. Best of. Voilà. Donc là, c'était le 47. Je vous mets le 48. Alexandra, je parle sous ton contrôle. C'est 48, c'est ça? Hop. 48, ouais. Voilà. Hop, ça. Normalement, vous avez point d'exclamation best of, là vous l'avez. Voilà, je vous l'épingle même. Est-ce que ça marche? Je crois que c'est ok. Quel ingénieur, quel ingénieur.
Tu regardes les trucs chelous.
Ça marche, ça marche. Super. Le maxi best of, ouais. Ouais, en plus il est livré avec un. Bon, ça dépend de vos goûts. C'est quand vous allez le voir sur YouTube, c'est livré avec une boisson. C'est vrai. C'est pour ça qu'entre nous on l'appelle le Maxi Best Of. Coca, Coca Zero, Fanta, voilà. Avec ou sans glaçon. Bah ça c'est vous qui décidez. C'est vous voyez. Ouais. 48. Merci Alexandre. Bon ben on est parti. Salut New Sleep Man. New Sleep Man. Pourquoi j'ai autant dans ma communauté des pseudos en rapport avec le slip? Je vous rappelle qu'un des modérateurs de cette chaîne s'appelle Moulbit. On a quoi? On a. Rappelez-moi tous les comptes qu'on a autour du slip. Hein? Il y a Moulbit, un autre, ouais. Hein? Pourquoi ça ne parle que de slip? Il y a ma grosse aussi. Oui, ma grosse, oui. Oui. Il y a Chibrax. parce que ce sont des obsédés de l'actu. Pas mal. Oui, il y a Mac et Kate, c'est un duo avec qui on joue à Valo, ouais. Le slip, c'est la vie, me dit Pimnet. Ok, d'accord. On a la commune qu'on mérite, Sarah. Ok. Ok. Ce lit prophète, cette blague-là, c'est une très bonne blague, hein, que je n'ai jamais vue encore dans un chat. C'est vraiment une blague qui nous fait nous tordre de rire, comme tu le vois là. Ce lit prophète. Donc, j'ai une politique assez radicale sur cette blague, pour ne pas inciter à la remettre, parce que en vrai, c'est quand même une blague claquée au sol, qui est comme une insulte pour le streamer. Parce que t'as l'impression que le mec stream depuis une semaine pour tomber dans le panneau. Donc tu prends 10 minutes hein, pour cette blague là. Voilà, ça, tu ne la remettras plus. Allez, c'est parti. Non mais c'est vrai, ça va quoi. En plus c'est quelqu'un de pas problématique du tout, mais cette blague là non. On commence par la chaleur. Let's go. 10 minutes c'est dur. Non, 10 minutes c'est pas dur. Tu veux que je te montre ce qui est dur? Non, ça, hors contexte, c'est pareil, ça va partir en clip. Ça. C'est pas ça que je voulais dire. Enfin, si. Mais ouais, non, mais je voulais. C'est pas... Mais non, mais par rapport à un ban dev, quoi. Ok. Aïe. Bon, on y va, c'est parti. Bon, début de la revue de presse. Bon, voilà. Été de plus en plus étouffant. Une bonne partie de la France est en alerte canicule. Ce vendredi, les coups de chaud se multiplient, comme le montrent les relevés météo depuis plus de 30 ans que nous avons compulsé, et ça va durer. Voilà. Mal nécessaire, édito de Marie-Christine Tabet, qu'on va lire. Le mot d'ordre est clair depuis quelques mois, il ne faut pas enquiquiner les Français, selon la formule de Georges Pompidou de 66, qui pestait devant un parapheur dodu par une inflation de décrets, de normes nouvelles présentées par son jeune collaborateur plein d'avenir, à l'époque Jacques Chirac. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ça détricote côté politique environnementale du gouvernement, autour de ma prime Rénov notamment. Vous allez voir là, enfin, dans l'actualité, là, il y a une suspension de tout chantier autour des éoliennes qui a été votée à l'Assemblée. Alors, en première lecture, hein, c'est pas un vote définitif, il faudra que ça passe au Sénat et tout. Tu sens qu'il y a des trucs qui... Il y a une tentation de, allez, on va arrêter d'embêter les Français. Il y a la fin des ZFE aussi, des zones à faible émission qui est souhaité par beaucoup. Enfin, ça détricote, quoi. Au nom de cette espèce de slogan, il faut arrêter d'emmerder les Français. C'est ce dont parle cette journaliste. Entre les élections municipales et présidentielles, sans parler d'éventuelles législatives qui s'annoncent, le Conseil pompidolien n'a jamais été autant suivi, entraînant une forme de renoncement dans certains domaines, notamment celui du dérèglement climatique. Or, s'il est de bon sens de faire le ménage dans bon nombre d'injonctions administratives nationales ou européennes qui tendent parfois à l'absurde, hein, il ne faut pas, par opportunisme politique, lâcher les efforts en matière d'environnement. Le gros coup de chaud qui nous attend dans les prochains jours, un pic est pronostiqué le jour de la fête de la musique.
C'est quand ça?
Samedi. Putain, je sens qu'on va avoir chaud. Question pour un champion, là, dans les studios. A au moins le mérite de nous rappeler que la planète brûle. Selon l'enquête de notre journaliste, dans le Var, on est passé d'une quarantaine de journées estivales avec un mercure à plus de 30 degrés dans les années 80 à plus de 70 en moyenne désormais. En 2022, la Bretagne a enregistré des pointes à plus de 40 degrés. Bon, ça on sait que c'est des fake news. Hein. Les pointes à 40 degrés en Bretagne. Ah là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire. L'été, ces records sont d'autant plus remarquables qu'ils sont inconfortables, mais il ne faut pas se leurrer. Les hivers connaissent aussi des phénomènes inquiétants, même s'ils passent plus inaperçus. Il y a des sujets sur lesquels enquiquiner les Français est un mal nécessaire, nous dit Le Parisien ce matin. L'inéluctable surchauffe de nos étés, les températures moyennes ont tendance à augmenter au fil des années, rendant les saisons estivales de plus en plus caniculaires, et ce n'est pas fini, la preuve en cartes et graphiques, et non pas en cartes graphiques. Ce n'est pas pareil. Chaud devant, le mercure va continuer de grimper très haut partout en France jusqu'au week-end. Attention à ceux qui vont sortir là, pour la fête de la musique, hein, faites attention au soleil, à la chaleur, tout ça. Hein. Consommation d'alcool et chaleur notamment ne font pas très bon ménage, donc vraiment attention. Jusqu'au week-end, marquant symboliquement le début de l'été ce samedi 21 juin. Les prémices d'une saison estivale très chaude, voire caniculaire, comme beaucoup d'autres ces dernières années, c'est probable, répondent scientifiques et climatologues. L'idée est doublement spectaculaire. L'été est doublement spectaculaire sur le plan climatique. Pourquoi ? Parce qu'on y atteint les valeurs les plus impressionnantes, parce qu'il se réchauffe un peu plus vite que le reste de l'année. Le réchauffement est d'environ 0,4 degrés Celsius en moyenne par décennie en été, contre seulement 0,3-0,2 pour les autres saisons. C'est intéressant. Donc l'augmentation est plus marquée pour l'été. C'est ce qu'explique un climatologue à Météo France qui s'appelle Mathieu Sorel. Pour établir à quel point nos étés ont été métamorphosés sur le plan climatique, nous nous sommes plongés dans les données de Météo France, dans les projections pour l'avenir. On déroule désormais le fil. Donc le Parisien a divisé cette analyse en 6 points. Je trouve ça plutôt bien fait. Réchauffement global et variation annuelle. Le plus évident est de suivre l'évolution de la température moyenne en été en France. La tendance est clairement orientée à la hausse avec des écarts d'une année à l'autre du fait de la variabilité naturelle du climat, ce qui existe. Pour imager, la courbe de tendance correspond à un homme qui tient son chien en laisse en marchant vers un point situé en hauteur, tandis que c'est... Bon, ça, je comprends rien, l'histoire du chien, on s'en fout. Le trio des étés les plus chauds jamais mesurés en France s'est constitué de 2003, 2018 et 2022. Donc, il y a un réchauffement global, mais il y a aussi des variations annuelles, bien sûr. Alors, on voit aussi que de rares records de température sont désormais battus. Dans de nombreuses stations météo ayant au moins 40 ans d'existence, ça n'est pas rien, 40 ans, le record absolu date désormais de la décennie 2010-2019, voire des années 2020. Intéressant. De plus en plus de jours torrides, voilà. Alors que une ambiance torride, on n'est pas contre, hein. On est tous pour, mais des jours torrides, moins. Merci Salen Chita pour ton 21e mois, merci mon ami. Le réchauffement climatique amplifie l'intensité des records, avec un thermomètre qui grimpe toujours de plus en plus haut, mais il multiplie et rallonge aussi les périodes très chaudes. Il suffit de regarder le nombre de jours d'été où les 30 degrés ont été dépassés dans le Var ou en Gironde, aux stations de Luc et de Bordeaux. Au Luc, par exemple, on est passé d'une quarantaine de journées estivales avec un mercure au-delà des 30 degrés dans les années 80 à plus de 70 en moyenne désormais. La moyenne, le record date de 2003. Même tendance pour les jours à plus de 35 degrés. Et pour ceux à plus de 40 degrés même, inexistant au siècle précédent, est désormais pas si rare. La chaleur monte d'un cran année après année. On voit de plus en plus de périodes chaudes qui durent plus longtemps et qui sont plus intenses. Des vagues de chaleur qui se multiplient. La vague de chaleur au sens de Météo France, c'est, il y a une définition très précise, c'est une température en France qui doit dépasser 23,4 pendant au moins 3 jours et même atteindre les 25,3 au moins 1 jour. Avec ces critères constants, il est possible de retarder leur fréquence au fil du temps et le résultat est sans appel. Des périodes étouffantes qui surviennent aussi de plus en plus tôt et de plus en plus tard dans l'année, c'est-à-dire dès la mi-juin, la preuve, ce qu'on vit en ce moment, et fin août, voire début septembre. Alors qu'avant, c'était plus concentré dans l'année, juillet-août. En ville, c'est encore pire, bon, ça vous le savez. En période caniculaire, le corps a besoin de respirer la nuit, mais quand on reste au-dessus de 20 degrés, c'est particulièrement pénible, et notamment pour les plus fragiles, je pense notamment aux enfants, aux personnes âgées, aux gens malades, hein. En région PACA, près de 80% de la population vivant sur 24% du territoire devrait en subir au moins 30 durant l'été sur la période 2021-2050, contre seulement 35% de la population sur 6% du territoire entre 1976 et 2005. L'écart de chiffres entre la part de la population et la part géographique s'explique pour une raison simple. Les grandes villes, beaucoup plus denses, surchauffent par rapport aux campagnes. Bon, quand il fait chaud à Paris, avec la chaleur emmagasinée par l'asphalte, la chaussée, les murs des immeubles qui est restitué, notamment la nuit, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Cet effet appelé îlot de chaleur urbain est dû notamment à l'urbanisation massive et au manque d'espaces verts rafraîchissants. Le manque aussi d'espaces verts, effectivement. En Île-de-France, par exemple, il n'est pas rare d'observer un écart de 5 voire 6 degrés entre Paris et la banlieue, de jour comme de nuit. Autant dire que les périodes nocturnes dans la capitale, mais aussi dans les grandes villes du Sud, s'annoncent de plus en plus pénibles à l'avenir. Un avenir, point 6, pas si tranquille. Le changement climatique entraîne un réchauffement de l'atmosphère depuis plusieurs décennies, et ça n'est pas fini. Tout dépendra des efforts des États et des citoyens, mais les scientifiques s'accordent sur un point. Les températures mondiales sont encore loin d'avoir atteint un plateau. Dans ses projections, Météo France anticipe comme scénario principal celui d'une hausse de 4 degrés de la température moyenne en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle 1850-1900. Plus 4, c'est énorme. Les engagements écrits des différents pays en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre rendent aujourd'hui ce scénario le plus probable. Certains États rament déjà à tenir leur engagement, dont je ne crois pas des perspectives plus favorables, pointe la climatologue Françoise Vimeux. Dans un tel cas de figure, le nombre de jours de vagues de chaleur en France serait multiplié par 10 d'ici à la fin du siècle, et même par 12 dans le sud-est. Des vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues, et plus intense. En 2050, on pourrait atteindre plus 5, voire plus 6 lors des pics de chaleur par rapport à la période pré-industrielle. Pré-industrielle, c'est 1850-1900. Les records actuels de chaleur ne risquent pas de tenir bien longtemps. Voilà. Je vous lis un petit peu et on va lire un autre article dans Libé là-dessus. Merci Oharia. Merci pour cette année de soutien. Le comptable, comment il prévoit dans 100 ans alors qu'il se trompe sur la météo du lendemain? Alors, il ne prévoit pas dans 100 ans, ce sont des prévisions, ce sont des projections et pas des prévisions. Et tu viens magnifiquement de confondre météo et climat, ce qui est le problème de tous les climato-sceptiques. Tu viens de nous faire la démonstration du problème. Grand respect à Sam, je suis sûr qu'il rêve tranquille, but en ce moment, mais tel un pro, il garde son t-shirt. Rien ne te dit, Mix, qu'en dessous de ce t-shirt, je ne suis pas nu. Donc, il n'y a pas de grand respect à avoir, puisque je ne me suis pas levé depuis le début de ce stream, et peut-être que je suis totalement nu sous la ceinture. Ça, vous ne le saurez pas. Mais il y a même des climato-sceptiques sur le chat en 2025. Oui, Romcito, lis le chat, oui, j'en ai. J'en ai. Je les vends d'ailleurs. J'en ai trop. Mais il y en a. Oui. Non, mais c'est pas le réchauffement, c'est les cycles en fait de la nature. L'homme n'a rien à voir là-dedans. Faut rien faire. Oui, j'en ai. Je les revends d'ailleurs. Faut pas vendre, faut donner. Ah ben non, moi je vends. Hein. Comme les cartes Pokémon, quoi. Je te l'achète 2,54€. Ouais, c'est un bon prix. C'est un bon prix. Comme j'en ai quelques-uns quand même. Alors je sais pas ce que vous voulez en faire. C'est des shiny, voilà. Alors c'est pas si rare, mais je les considère comme un petit shiny à moi. Avec lesquels on pourrait faire un petit album Panini, ouais. Ouais. Pour un climato-sceptique acheté, le deuxième à moitié prix. Oui, Spartan Pock, je valide cette promotion. I feel fine. S'ils sont pas trop usés, j'en prends 5, c'est pour faire du remblai. Ok. Donc ça fait 5 fois 2€ plus. Et puis la petite promo dont on vient de parler, tout ça un peu, ouais. On peut faire un dîner aussi, King Julian aussi, mais ça c'est méchant. Ok, alors je voulais vous lire un autre article là-dessus. Ils sont frais au moins. Oh, mais ils sont frais. Ils sont frais. Celui de Libération sur le sujet qui nous dit hélas que. Bon, bah, le scénario de rester sous une augmentation de plus 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, eh bien, les scientifiques disent que ça n'est plus possible, on n'y arrivera pas. C'est désormais officiel. On s'en doutait, hein, depuis longtemps. Hein. Rester sous le seuil de 1,5 degré n'est désormais plus atteignable en raison de l'inertie de la société et des émissions massives de gaz à effet de serre. Le seuil fixé il y a 10 ans par l'accord de Paris n'est plus un objectif réaliste, constatent des chercheurs dans une étude internationale. Cela devenait important de le dire, limiter le réchauffement planétaire sous 1,5 degré, donc je pense par rapport à la période pré-industrielle, n'est désormais plus atteignable. Une soixantaine de chercheurs de 17 pays ont publié hier, jeudi, les indicateurs clés du climat planétaire pour 2024 dans une revue scientifique qui s'appelle Earth System Science Data, étude qui vient appuyer ce constat sans équivoque. Selon ces experts de renom qui formulent pour la première fois ce constat collectivement, si l'humanité émet encore 130 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère, l'objectif symbolique de l'accord de Paris scellé en 2015 lors de la COP 2021 sera caduque. Effectivement, tu avais raison, Mr. Gège. Au rythme actuel de 40 gigatonnes par an, il ne reste donc plus que 3 ans. Pardon, quelqu'un m'a demandé la différence entre météo et climat. Défécateur officiel nous donne la réponse. La météo s'intéresse aux conditions atmosphériques à court terme. La météo à un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Le climat, c'est l'étude de l'évolution des conditions sur les longues durées, au minimum sur 30 ans. Ce ne sont pas les mêmes observations, ce ne sont pas les mêmes modèles de prévision. Merci Défécateur, tu es un goat. L'inertie sociétale est telle que cet objectif est inatteignable, assure un climatologue, Christophe Cassou, du CNRS. Il s'agit d'une simple constatation lucide et froide. Les chercheurs actent donc l'échec des responsables internationaux à faire respecter ce qui avait été défini comme l'horizon le plus souhaitable en 2015 pour espérer limiter le réchauffement à plus 2 degrés maintenant. Eh bien, il reste 25 années d'émissions au même rythme. Fixé il y a 10 ans lors du sommet climat de l'ONU à Paris, quelqu'un me disait « mais c'était pas l'objectif de Paris ça ?» Complètement, tu avais raison. La barre de 1,5 degré a rapidement vu sa crédibilité remise en question, mais beaucoup de scientifiques préféraient taire leurs doutes pour ne pas compromettre le lancement de politiques publiques ambitieuses pour limiter ces émissions de CO2. Le rôle du GIEC n'est pas déterminé si 1,5 degré est faisable, expliqué par avance, par exemple en 2018, Henri Wessmann, chercheur à l'Institut du développement durable des relations internationales. Mais en 2023, lors de la COP28 de Dubaï, cela restait la cible officielle. Je vous lis, hein, je vois beaucoup d'humour sur le sujet. On n'est pas obligé de désespérer. Hein. Enfin, si, on peut désespérer, mais on peut aussi en rire. En même temps, les deux. Merci, Didier Gridou. Donc, on l'a déjà perdu, il n'y a plus rien à faire. Ah, bah non, Quentin, c'est pas ce qu'on dit. T'inquiète. Au fil du temps, les experts ont donc ressenti le besoin de mettre à jour de façon annuelle la dizaine de données clés du changement climatique. Ils ont donc créé l'initiative des indicateurs sur le changement climatique global. Voilà. La crise climatique s'aggrave. En 2023, le dernier rapport du GIEC, les experts sur le climat, estimait que l'humanité pouvait encore émettre 500 gigatonnes de CO2 avant de dépasser 1,5 degré de réchauffement. Ce chiffre est tombé plus rapidement que prévu à 250 en 2023, puis à 130 gigatonnes en 2024. Pourquoi ? Plusieurs raisons. Nous avons identifié la baisse des émissions de méthane comme un levier efficace et rapide pour ralentir le changement climatique et la chaleur toujours plus extrême. Mais depuis 2021, les émissions de méthane ont augmenté de plus de 3% au lieu de baisser. Les efforts pour lutter contre la pollution de l'air, en revanche, ont payé. Quelqu'un dit tuer les vaches. Bah oui, les vaches, par exemple, émettent énormément de méthane. Ouais, c'est vrai. Les efforts pour lutter contre la pollution de l'air, en revanche, ont payé. Moins de particules de soufre, notamment renvoyées dans l'atmosphère, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Avec un effet pervers, ces particules ont aussi un effet refroidissant qui avait tendance à masquer l'ampleur du réchauffement. En limitant ces rejets, on a protégé nos poumons, mais on a aussi réduit l'effet parasol, refroidissant des particules soufrées. Aïe. Si l'objectif d'1,5 degré est donc caduque, ce seuil n'est pas encore franchi aujourd'hui. Certes, l'année 2024 a été marquée par exemple par une hausse de la température de 1,52 degré, mais il ne sera officiellement atteint que lorsque la moyenne sur 30 ans dépassera ce chiffre. Chose intéressante, les scientifiques font la part des choses entre le réchauffement attribuable aux activités humaines et l'évolution naturelle. Ah bah tiens, ça c'est le fameux débat. Sur 1,52 degré de réchauffement, 1,36 est imputable à l'humanité. Le reste, 0,16, est imputable à la variabilité du climat. C'est intéressant parce que ici même dans le chat, on a régulièrement des gens qui viennent nous dire « mais ce n'est pas du tout un changement global, c'est la variabilité naturelle du climat, des cycles. Voilà. Les scientifiques ont essayé de mesurer ça et ils disent que sur les 1,52 de réchauffement, par exemple, eh bien, vous avez l'essentiel 1,36 qui est imputable à l'humanité et le reste, effectivement, dû 0,16 à la variabilité du climat. Ça peut expliquer, par exemple, les écarts d'une année sur l'autre. Hasard du calendrier, parlons un petit peu de la France. La France a confirmé cette semaine l'essoufflement de sa stratégie bas carbone. En 2024, les émissions brutes de gaz à effet de serre ont reculé de 1,8% par rapport à 2023. C'est la plus faible réduction en 3 ans. Le ralentissement du rythme de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en 2024, à un moment où certains responsables politiques remettent en cause par pur opportunisme politique la transition écologique, nous rappelle plus que jamais que le chemin à parcourir reste long et que nous ne devons pas baisser la garde. C'est ce que dit la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Je vous lis. Pourquoi être climato-sceptique ? Qui sont ces gens ? Me demande Grey Square. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Captain Mumul, je veux bien faire des efforts à mon niveau, mais quand on voit que la femme de Jeff Bezos vient chercher à Cannes son prix pour l'environnement en yacht de plus de 100 mètres de long, c'est désespérant. Les jets privés qui partent de Nice pour Cannes alors qu'il y a une trentaine de kilomètres entre les deux villes également. Tout le monde doit faire un effort, Captain Mumul, tu as raison. Alors, évidemment, incidemment, si on interdit à l'épouse de Jeff Bezos de venir chercher à Cannes son prix sur l'environnement en yacht, ça ne va pas changer la face du monde. Mais... Il y a des exemples à donner, tu as complètement raison. Les gens aussi en ont marre de faire des efforts pour le climat alors qu'aucun résultat n'est visible. Alors Utopie, moi j'entends l'argument, mais tu comprends bien que si on prend ton argument au pied de la lettre, en fait, c'est foutu quoi. Hein, le côté « moi je ne fais pas ou je ne fais plus parce que les autres font pas ou font moins que moi », vous imaginez bien qu'au niveau international, si tout le monde est dans cette logique-là, c'est terminé, quoi. Finito. C'est pour ça que l'écologie sans justice sociale, c'est du jardinage, le guignard enchaîné. Comment te donner tort ? Tu as totalement raison. Après, je soupçonne, pas tous, hein, mais certains, heureusement pas très nombreux, de citer cet argument dans le chat. Hein, pourquoi moi je fais des efforts et les autres n'en font pas alors qu'en vrai ils n'en font pas non plus, mais je pense que c'est comme j'ai foi en l'humanité, c'est une ultra minorité bien sûr. Façon un petit peu de se donner bonne conscience. Merci Despierrette et bienvenue, mais tu es bienvenue et merci de ton message qui fait chaud au cœur. Merci Esprit. Je voulais, je remonte dans le chat. Hein. Il faudrait mesurer l'impact des hauts dirigeants stars sur l'environnement, DDNL. Je crois que tu as raison. Sans remise en question du capitalisme débridé, on fonce dans le mur. Je pense que Tabs, tu n'as pas tort non plus. « j'avais pas vu le sondage. Vous sentez-vous concerné par le dérèglement climatique? Oui, 86%. Sans réponse, non. 9 personnes, 8%. Pardon, 7 personnes, 6%. Ok. Merci pour le sondage. Alors, neutre et impartial, cette revue de presse, non. Il y a 5-1 qui me dit un truc très gentil, mais c'est faux. Merci en tout cas pour cette revue de presse neutre et impartiale. Je suis, me dis-tu, rarement présent, travail oblige, mais chaque passage sur ta chaîne est un plaisir. 5-1, alors cette revue de presse, elle a bien des qualités, mais pas celle-ci. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Elle est forcément partisane, cette revue de presse. Le matin, je lis ces journaux-là. Bon, c'est mon choix. Déjà, je ne lis que ces journaux-là. Je pourrais lire la presse régionale, mais par manque de temps, je ne le fais pas. Je pourrais lire la presse magazine, mais par manque de temps, je ne le fais pas. Je pourrais lire la presse qui n'est que sur Internet, par manque de temps, je ne le fais pas. Je pourrais lire d'autres presses, mais voilà. J'ai choisi cela, c'est parce que c'est les journaux que j'aime bien lire, notamment parce que ces quotidiens nationaux traitent de toute l'actualité, de façon transversale, quoi. Ce qui me permet d'avoir plusieurs regards sur une même actualité. Donc ce ne sont pas des journaux spécialisés. Donc moi, j'aime ces journaux. Donc déjà, c'est un choix, c'est un premier choix. Donc ça n'est pas neutre, j'ai fait un choix sur les journaux. Le Monde, Le Parisien, Libération, Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Voilà. Donc déjà. Ensuite, dans ces journaux déjà que j'ai choisis, je fais un choix des actualités dont je vais vous parler. Par manque de temps, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, mais aussi parce que je vais vous parler des sujets qui m'intéressent le plus moi, ce qui est très subjectif, au filtre de mes idées, de mes valeurs, de mon parcours, de mes rencontres, etc. Donc deuxième subjectivité, choix des journaux, choix des articles, des sujets, quoi. Et après, au fil de la lecture des journaux, évidemment, j'arrête pas de vous filer mon avis en vous disant bien que ça n'est que mon avis et pas parole d'évangile, mais je vous le donne quand même, mon avis. En vous disant que ça n'est pas un fait, que c'est juste mon opinion et qu'elle vaut pas tripette, mais je vous le donne quand même. Subjectivité, plus subjectivité, plus subjectivité. Plus tous les filtres inconscients dont je suis bourré. Parce qu'il y a les filtres dont je suis conscient, d'où je viens, mon éducation, etc. Ma formation intellectuelle, blablabla. Mon vote, et puis il y a aussi plein de filtres inconscients dont je n'ai pas conscience. Voilà. Non, par contre, je ne suis pas bourré, SDF. Non, parce que j'ai dit bourré de filtres. Non, je suis pas bourré. Ah non, non, je bois pas. Donc, revue de presse impartiale, non. J'essaie de faire mon travail honnêtement, on va dire. Mais elle ne peut pas être impartiale. Elle ne l'est pas. Le petit jaune de bon matin, je ne fais plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye d'être rigoureux, quoi. Et honnête. Mais tout ça est éminemment subjectif. Comme le dit Matray, chaque journaliste est un regard différent sur le monde. Par exemple, Rebord a raison. J'ai refusé de parler du saumon entier à 7,99€ seulement chez Carrefour. Et ça, c'est une honte. Je sais. Allez, je vous parle maintenant de l'Iran, je crois. Ouais. Ah oui, tapis jaune, c'était trop bien. Scalplex, hello Sam, plaisir de t'avoir vu chez Mehdi Maizi, pour l'émission Tapis jaune. Excellente émission de Mehdi sur le cinéma. J'ai été bluffé par la qualité éditoriale et formelle de cette émission sur la chaîne Twitch de Mehdi. Comme Mehdi, je pense, n'est pas encore identifié comme un streamer vraiment par plein de gens. Du coup, il n'y avait pas. Moi, je suis allé voir les chiffres après. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est bien dommage parce que cette émission vaut bien plus de viewers que ça. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mehdi Maizi et notamment son émission Tapis Jaune, qui est une émission de passionnés de cinéma. C'est du bon boulot, quoi. Merci beaucoup, Esprit, pour le prime. Parlons de l'Iran. Ah oui, Mehdi, il est incroyable. Parlons de l'Iran. L'Iran. Est-ce que les États-Unis vont rentrer dans la guerre? Page 6, dans Le Parisien. Let's go. Trump, la guerre et le show. Rediff sur YouTube, Brooks. Oui. Tu parles de l'émission de Mehdi, je pense, ouais. Ouais, la chaîne, c'est Mehdi Mouse, sur Twitch. Le président américain joue de sa menace de diligenter des frappes sur Téhéran. Même si, jeudi soir, il affirmait se laisser du temps avant de décider. Seul Donald Trump a ce pouvoir, peut-être même ce talent. Le président américain s'est replacé en à peine 48 heures au cœur des discussions et des craintes qui entourent la campagne militaire d'Israël en Iran. D'après plusieurs grands médias américains, le républicain aurait approuvé mercredi un plan pour bombarder des structures clés de Téhéran. Une décision qu'il ne prendra qu'à la dernière seconde. Même si la Maison-Blanche a fait savoir qu'elle pourrait intervenir au cours des deux prochaines semaines, le milliardaire estimant substantielle la possibilité de négociation avec Téhéran. Le monde scrute désormais un signe, pouce levé ou pouce bas, émanant de la Maison-Blanche. Je vais peut-être le faire, peut-être pas, se délecte Donald Trump. Personne ne sait ce que je vais faire. Quoi qu'on pense de Trump, dans sa façon de... Le mec est quand même président des États-Unis, t'as vraiment un côté petit garçon, quoi. Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vais peut-être le faire. Peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Je rajoute, lui non plus. Hein. Il vit sa meilleure vie, quoi. Qu'est-ce que je vais faire ce matin ? C'est incroyable. On verra bien. Waouh. L'ancienne gloire de télévision, c'est vrai qu'il a fait de la télé, aime vivre toutes les caméras braquées sur lui. Ah oui, c'est un peu le syndrome du personnage principal. C'est comme ça qu'on dit, non ? Et il rajoute, tout peut arriver, n'est-ce pas ? Et il sourit. Hein ? L'ego avec lui n'est jamais loin. La semaine dernière... le premier ministre israélien, son ami, comme il dit, Benjamin Netanyahou, l'avait averti au dernier moment des frappes imminentes. Le boss de la première puissance mondiale est relégué alors au rang de spectateur. Une infamie. Trump s'était notoirement opposé au déclassement des hostilités. Il est en Washington en train de négocier avec l'Iran au moment où Netanyahou décide de ses frappes. Donc vraiment, il est vraiment mis sur le côté, quoi. Son administration a négocié pendant des semaines avec le pouvoir iranien pour circonscrire son programme nucléaire. Un coup d'éclat de Tel Aviv ferait tout capoter, redoute-t-il alors. Donc là, il est vraiment mis au second plan, quoi. Le septuagénaire sait s'adapter. Les premières déflagrations soufflent sur l'Iran vendredi dernier. Le monde sidéré comprend très vite que Téhéran ne peut rivaliser. En bon opportuniste, Trump se range alors dans le camp des vainqueurs. Merci Alex, le sympathique, tu l'es toujours autant. Le régime des Mollahs aurait dû tomber d'accord avec ses équipes, argue-t-il. Mieux vaut en apparence remporter une bataille que d'échouer à imposer la paix. Son secrétaire d'État, Marco Rubio, rappelle tant bien que mal que les États-Unis ne sont pas impliqués dans ce conflit. Nous avons maintenant le contrôle total de l'espace aérien iranien, revendique à rebours le président américain. Chaque situation est bonne pour rappeler son autorité. Lundi, il déserte le G7, hein, dans une sortie théâtrale, appelant à évacuer Téhéran au plus vite. Hein, il se barre du G7, il dit « bon, j'ai des trucs plus importants à faire ». En Iran, les États-Unis auraient localisé le guide suprême Ali Khamenei. Nous n'allons pas l'éliminer, en tout cas pas pour l'instant, savoure-t-il, réclamant une reddition complète des Iraniens. Ces menaces de plus en plus insistantes mettent le régime des Mollahs sous pression. Un jour, il affirme qu'il souhaite relancer les négociations, puis laisse entendre le lendemain qu'il est trop tard pour discuter. Ce flou permanent, c'est un constat, doit servir son objectif, contraindre Téhéran à renoncer à son programme nucléaire militaire. La semaine prochaine sera très importante, peut-être moins d'une semaine, promet-il, se disant à bout de patience. Dans le bureau ovale, symbole absolu du pouvoir transformé en plateau de télé-réalité à sa gloire, le milliardaire recevait mercredi l'équipe de football de la Juventus de Turin pour une visite a priori anodine. Pourtant, souvent, quand il reçoit des gens dans la Maison Blanche, il fait des petits hors-sujets et il déclare devant ses joueurs de foot « Je ne veux pas me battre, je ne cherche pas à me battre ». Mais si c'est un choix entre se battre et qu'ils aient l'arme nucléaire, alors il faut faire ce qu'il y a à faire. Moi, les joueurs de foot le regardent en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi ? On est des joueurs de foot, quoi. » Et le mec, il dit « Les gars, je vais y aller, quoi. Mais retenez-moi. » Il dit aux joueurs de foot de la Juve « Retenez-moi, les gars. » On a l'image ou pas ? Ce serait incroyable. Ah, il a parlé aussi. Ah oui, bizarrement, il a interpellé les joueurs de la Juventus aussi sur les joueurs transgenres.
Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture?
J'adore les pubs. J'adore les pubs, moi. Vous aimez? Moi, j'aime bien les pubs. J'ai un extrait, là, du Huffington Post. Iran, transphobie, les joueurs de la Juve ont vécu un moment lunaire avec Trump. Ça, j'ai pas vu ça.
We have a very good women's team, though. We
do have, right? But they should be playing with women, right?
La Juve, ils disent, on a une très bonne équipe féminine aussi. Et Trump dit, ouais, mais on est d'accord qu'elle devrait jouer que contre des femmes. À mon Donald.
Ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, you know, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. And people are coming in, but they have to come in legally, like some of these guys behind me. They have to come in legally. Have you ever had women? Could a woman make your team, fellas? Tell me. You think? Yeah. You're being nice.
Est-ce qu'une femme serait assez bonne pour jouer avec vous? Vous avez entendu? Et donc il y a un mec qui répond oui. Et Trump dit, vous êtes gentil. Hein.
What do you think? Think a woman could make the team? General managers, what do you think?
Oh, les pauvres.
We have a very good women's team, though.
You do have, right? Yeah. But they should be playing with women, right? You know, it's one of those things. One of those things. Like, see, they're very diplomatic.
Putain, j'avais pas vu, mais c'est mec qui est incroyable. On dirait une série télé. Imagine des scénaristes qui disent, attends, on va imaginer un président américain, il reçoit une équipe de foot internationale, et à un moment, le mec, il pète un câble, il leur parle de la guerre en Iran et des transgenres, il va les prendre à partie, il va essayer de les coincer et tout. Non, non. Puis l'autre scénariste dit, bah, arrête, c'est trop gros, personne ne ferait jamais ça, quoi. Le public ne va pas acheter la vanne, quoi. En fait, lui, il va plus loin que les scénaristes, quoi. Je pense que le mec se marre, quoi. Ouais, The Office, ouais. Oh, c'est incroyable, c'est fascinant. Ouais. Revenons à l'Iran. Vous n'avez pas vu ces images? Incroyable. Ah, donc, le Parisien revient sur cet extrait que je n'avais pas vu. Donald Trump a entamé son second mandat il y a 5 mois, jour pour jour. Son slogan, l'Amérique d'abord, a porté la promesse d'épargner au pays une nouvelle guerre. C'est moi qui décide ce que l'Amérique d'abord veut dire. Coupe-t-il court aujourd'hui? Une partie de sa cour, de ses proches, se scandalise. Dans son podcast, l'ancien éditorialiste star de Fox News, Tucker Carlson, accuse l'administration de s'attaquer à un pays dont elle ne sait rien. Trump répond de son ancien soutien, c'est un timbré. Sa directrice du renseignement avait estimé en mars que les dirigeants iraniens ne cherchaient pas à se doter de l'arme atomique. Aujourd'hui, elle dit, je me fiche de ce qu'elle a dit. Depuis des jours, le régime iranien répond qu'il ne négocie pas sous la contrainte et qu'il répondra à toute menace par des mesures réciproques. Pour l'instant, Trump apparaît comme un joueur de poker génial, reconnaît le géopolitologue Dominique Moisy. Mais le problème, c'est qu'on joue au poker. Parfois, le jeu peut vous échapper. Ce vendredi, donc aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion sur l'escalade potentielle du conflit. Le risque, ce serait que le président américain soit allé trop loin pour reculer. Poursuit le géopolitologue, le chantre de la paix par la force se retrouverait alors empêtré dans une guerre qu'il n'a jamais voulu. Et là, j'ai un petit encadré sur « Et si les États-Unis attaquaient ?» Je suis sûr que j'ai loupé des questions, je vous lis un petit peu. Il va encore nous régler le conflit en 24 heures comme l'Ukraine, comme Gaza. Ouais, c'est vrai, défécateur. La Corée du Nord, il allait régler le problème des deux Corées comme ça, et puis non. L'Ukraine, il avait dit 24 heures, ouais. Puis finalement, non. Du coup, il ne s'y intéresse plus trop. Gaza aussi, ouais. Puis finalement, non. Ouais. Le retour du saumon? Ah putain, vous faites chier. Oui, non, mais tu as raison, Gwen Gelombi. Je suis d'accord avec Gwen. Salut Samuel, je tiens à préciser que je ne suis pas d'accord avec le personnage Trump ni avec ses idées et son gouvernement. Cependant, j'ai l'impression que tout le monde le critique en disant qu'il fait tout sans réfléchir. Mais j'ai l'impression que malheureusement, il est intelligent, entre guillemets, avec ses idées et qu'il sait ce qu'il veut faire et comment appliquer ses idées. Je ne sais pas si je suis clair. Bien sûr, Gwen Kenobi. Non, non, bien sûr, le mec n'est pas fou. C'est juste qu'il fait de la politique à sa façon et que cette politique, elle fait un peu... Exactement. Il est opportuniste. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Donc, en fait, ses rapports de force, c'est côté coup de poker, c'est mettre la pression pour reculer après. Alors, la question, est-ce qu'un pays comme les États-Unis se gère comme une entreprise ? Le problème, c'est que la réponse est non. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Mais tu as raison, tu as raison. Le mec n'est pas fou. Voilà. Il est plein d'autres choses. JVBN propose réactionnaire, par exemple. Voilà. Il gère la planète comme un businessman, dit encore Myriam. Par exemple, je pense que son... Imaginons que je suis Trumpiste aujourd'hui, moi je vais vous expliquer. Imaginons que je suis Trumpiste, ce que je vais vous dire, moi, c'est que là, c'est des discours un peu ambiance martiale. En mode, mais moi je suis prêt à appuyer sur le bouton, retenez-moi ou je vais faire un malheur. Et il dit au joueur de foot derrière, je sais pas si je vais le faire, mais je vais peut-être le faire, ou avec un petit sourire, attention. C'est en mode fou du bus, c'est aussi pour faire peur éventuellement aux Iraniens par exemple, enfin au gouvernement, au régime iranien. Pour bien faire comprendre qu'il est capable de le faire. Ça, c'est une forme de rapport de force qu'il a sûrement utilisé déjà dans le monde du business, quoi. J'avais un chef comme ça, il soufflait constamment le chaud et le froid, c'était insupportable. Flamand rose, mais c'est insupportable, par contre, tu as raison. Ouais. C'est insupportable. Ce qui est insupportable au niveau d'une entreprise, d'une PME, est encore plus insupportable quand tu gères un pays de la taille des États-Unis, quoi. Ouais, c'est vrai. Blax dit le problème de Trump, c'est qu'il surjoue sa main. On revient au poker. Et quand les négociations vont pas dans son sens, il fait souvent machine arrière et ça cause beaucoup d'incertitude, donc le chaos. On est d'accord. Alors, et si les États-Unis attaquaient ? Je vais zoomer parce que je sais ce qui se passe. Vous êtes obnubilé par cette promotion Carrefour sur le saumon. Je n'en peux plus. Donc je zoome. Et hop ! Et c'est fini. Et si les États-Unis attaquaient ? Ils soufflent le chaud, le brûlant et le glacial. Questionné mercredi sur une possible implication militaire des États-Unis dans la guerre, lancée par Israël contre l'Iran, Trump s'ingénie à brouiller les pistes. 7,99€ le kilo pour ceux qui n'ont pas vu. Peuvent-ils, les États-Unis, entrer en guerre ? Question du Parisien. Alors, pas question pour lui d'envoyer des troupes, hein. 7,99€. Selon l'adage isolationniste, « No boots on the ground ». Tranche un chercheur associé à l'IRI qui s'appelle David Rigoulet-Rose. Reste l'option aérienne. Et les derniers signaux vont dans ce sens, puisque le porte-avions USS Carl Vinson patrouille actuellement dans le Golfe. L'USS Nimitz se dirige vers la mer d'Oman. Des avions de chasse et ravitailleurs se positionnent dans les airs. No boots, just bombs, exactement. Au sol, les bases du Golfe ont été discrètement réorganisées. Les unités les plus vulnérables ont été placées hors de portée d'éventuelles frappes iraniennes. Sur le plan légal, seul le Congrès peut, et vous le savez sûrement, déclarer la guerre, sauf qu'en pratique, les présidents américains contournent souvent cet obstacle constitutionnel en évoquant l'article 2 de la Constitution qui les nomme commandant en chef. Donald Trump l'a fait, par exemple, en 2017 en Syrie. Alors, que viserait une éventuelle attaque américaine ? Israël veut sonner le glas du programme nucléaire iranien et pour ce faire, manœuvre en coulisses pour impliquer Washington. Voilà. En ligne de mire, Fordo, la fameuse usine d'uranium souterraine, présentée comme le joyau du nucléaire iranien, un site enfoui à près de 100 mètres sous la montagne, à 140 km de Téhéran, hors de portée des frappes israéliennes, d'où l'espoir d'une américaine, parce qu'ils ont une bombe conventionnelle, classique, pas nucléaire, mais gigantesque, hein, qui s'appelle la GBU-57, et qui pourrait neutraliser ce centre nucléaire. Notamment lâché par les bombardiers B2. Quelle riposte pour Téhéran ? Alors attention, l'Iran conserve une capacité de nuisance redoutable, avertit Zandal, Randall Zniben, qui est je cherche toujours nous demander qui parle. Est-ce que c'est un chercheur? Ils ne le disent pas. Il faut dire qui c'est. J'ai toujours raté. Alors je... Hop, Randall. C'est bien. Ok. C'est un chercheur. C'est un spécialiste des questions militaires. Ok. Il a fait Saint-Cyr notamment. Et c'est aussi un chercheur. Ok. Très bien. Important. Toujours savoir qui vous parle. Donc, ce spécialiste des questions militaires nous dit « L'Iran conserve une capacité de nuisance redoutable. » Une salve de drones ou de missiles balistiques suffira à frapper en quelques heures les bases américaines réparties autour du Golfe. En mer, Téhéran peut aussi miser sur ses vedettes rapides capables de harceler les pétroliers, voire de lancer des opérations commando pour en prendre le contrôle. Et le régime dispose d'un autre levier, le détroit d'Hormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial qu'il pourrait miner, ce qui perturbait fortement le trafic maritime. Il y a une grosse partie du trafic du pétrole mondial qui passe par ce détroit. Voilà. Sauf que l'Iran exporte aussi du pétrole par ses voies, donc ce serait un petit peu se tirer une balle dans le pied. Arrêtez le saumon, je zoome de toute façon. La région peut-elle s'embraser ? Il y a peu de chances qu'un pays vole au secours de l'Iran. Vous savez que théoriquement, l'Iran et la Chine sont alliés. Est-ce que vous avez entendu la Chine menacer d'intervenir ? Non. Hein. Business is business, quoi. Il y a peu de chances qu'un pays vole au secours de l'Iran. L'axe des proxys, des alliés, essaie de les intégrer, hein, ce qu'on appelle le Hamas, le Hezbollah pro-iranien. L'Iran, aujourd'hui, se retrouve seul. Les soutiens traditionnels de Téhéran, les houthistes, notamment, peinent à suivre. Du côté des puissances du Golfe, certains observent la situation en silence, voire avec une satisfaction contenue. Dans les pays du Golfe, on est très, très content que les capacités nucléaires iraniennes soient tapées. À l'image de l'Arabie Saoudite, soulagée à l'idée que la marche de l'Iran vers le feu nucléaire soit stoppée, mais inquiète, en revanche, d'une trop grande domination d'Israël dans la région. Pékin et Moscou, alliés de l'Iran, ont signé des partenariats avec Téhéran, mais sans clause de défense mutuelle. Ce jeudi, le porte-parole de la diplomatie russe a qualifié toute intervention américaine de mesure extrêmement dangereuse, condamnation ferme, mais condamnation verbale. Voilà. Bon, ils ont déjà du mal à envahir l'Ukraine, hein. Mercredi, Antonio Guterres a aussi tiré la sonnette d'alarme. Toute escalade aurait des conséquences énormes pour la région, car un seul missile mal orienté vers Tel Aviv et très meurtrier pourrait amener Washington à entrer pleinement dans la guerre. Voilà. Je vous lis. Non, je vous en ferai après ça. Ah oui, on me dit que Diesel me dit que le détroit d'Hormuz c'est 45% du pétrole pour la Chine. Ok. Je vous lis. Yael, ça bouge pour le nucléaire, mais pour le génocide à Gaza, pour interrogation, ben, ça bouge pas. Ça bouge pas. D'ailleurs, tout le monde sait que l'une des raisons pour lesquelles Netanyahu a décidé de frapper l'Iran maintenant, alors que la menace de la du programme nucléaire militaire iranien est là depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Maintenant et pas un autre moment, c'est notamment pour reprendre la main au niveau international, un moment où de plus en plus de pays prenaient la parole pour dire à Israël que désormais c'était stop. Je vous rappelle que juste avant, juste après les frappes, devait se tenir une conférence de l'ONU à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite, visant peut-être à la reconnaissance de l'État palestinien par la France, ce qui aurait été très embêtant pour Israël. D'autres pays auraient pu suivre, ça aurait été le début de quelque chose, et cette conférence a dû être reportée. Donc c'est aussi, cette attaque permet sûrement aussi de mettre la question palestinienne au second plan. Tu as tout à fait raison. C'est sûrement l'une des raisons. Mais ici, on n'oublie pas Gaza et on va continuer d'en parler, bien sûr. C'était pas cette semaine que Macron devait éventuellement reconnaître l'État palestinien ? Ben si, cette conférence était tenue, si, Tilk, oui, mais cette conférence a été repoussée, du coup. Ok, bon, maintenant, puisque ça vous tenait à cœur, je vous le mets. Vous avez été très nombreux à appeler de vos voeux un focus, un coup de projecteur, un moment dans cette revue de presse consacrée à cette promotion pour le saumon. C'est pour vous, c'est cadeau. C'est la news du jour, dit machin. Origine du saumon, élevé en France, c'est marqué. Voilà. Le bon plan du week-end. 7,99€ le kilo. 3 jours pour en profiter du vendredi 20 au dimanche 22 juin. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Voilà. Calibre 1 à 3 kilos. Voilà. Origine France, alors saumon d'élevage, hein, sûrement. Hein. Hein. Saumon entier, donc faut le. Ouais. Après, faut le préparer. Il y a des spécialistes du saumon dans le chat. Hein. Picazode. Ah, c'est sur des calibres 1-3 kg, donc des petits. C'est de l'arnaque. Ils revendent leur stock de menus fretins. 3 kg, même 2 kg, c'est déjà une pièce. Hein. Je vous rappelle que du poisson, j'en ai vendu, moi. Voilà. Enfin, on parle des vraies choses. Voilà. Je passe chez Carrefour de suite. Je peux le mettre dans mon aquarium, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il ne va pas être super vivace, mais... C'était combien le saumon à l'époque quand tu bossais dans le poisson ? Oh, bah, c'était en sesterce, alors il faudrait que je fasse la conversion, mais... Donc, sesterce, ancien franc, franc nouveau franc, franc lourd, franc euro, enfin, ça va être compliqué, quoi. Il pense quoi, l'ancien professionnel, du prix ? Bah, c'est cher quand même, hein, par rapport à mon époque, mais bon. C'est quoi la rêve sur le poissonnier ? Ben moi, j'ai été poissonnier. J'ai vendu du poisson dans ma jeunesse, dans la poissonnerie de mon papa. Voilà. C'est grave pas cher. Ben, je sais pas, je trouve ça cher quand même. Moi. Ah, alors, tiens, alors voilà, puisqu'on parle d'alimentation, quelqu'un hier, un viewer, nous a beaucoup inquiété parce qu'elle avait mangé une religieuse au chocolat périmé. Je vous rappelle les faits. On est sur une chaîne d'info, donc carré, on est carré sur le news, voilà, priorité à l'info. L'emballage était bombé, donc tu sentais que le truc avait travaillé. La crème pâtissière piquait, et la personne a mangé les deux tiers. On est sur une prise de risque maximale. Azulina est avec nous dans le chat et nous donne les dernières infos. Salut Sam, des nouvelles de la religieuse au chocolat périmée. Je n'ai pas du tout été malade, aucun symptôme, mais pas de chasse. Ok. Donc tu as manifestement un appareil digestif de Doberman. Ce qui est une bonne nouvelle. Voilà. Mais tu nous as fait très peur, quoi. Oui, oui, il ou elle avait faim, oui. Parce qu'en fait, ça, la crème piquait, mais ça a tout mangé quasiment. Ouais. C'est quoi ces sondages là, les modos, c'est-à-dire depuis que vous avez la main sur les sondages, c'est... Que pensez-vous de cette promotion? J'aime le piment, l'espelette, je m'en tape, je cours à Carouf. Mais vous, prenez, vous êtes sous influence, vous. Les modos là, vous prenez de la drogue en fait. C'est pas possible ça. Il n'y a aucun, y a plus aucune règle ici en fait. Hein? Ouais, la cave est pas assez aérée. Il n'y a pas que la cave qui est pas assez aérée, moi, je te le dis, moi. Ouais. C'est l'anarchie, ouais. C'est le chaos, voilà. Oui, c'est la chienlit, moi, je dirais. Je vais remettre tout ça au pas, moi. Je vais partir à Baden-Baden, je vais aller voir l'état-major et on va discuter de tout ça parce qu'il y a un truc qui va pas là. Ça part à volo, hein. À YOLO, là aussi, là, comme vous dites, là, les gamers, là. Ton anniversaire, c'était il y a un mois pile, ça passe vite. Oui, Tsanchita, je vis de plus en plus. Je m'écroule même. 5-1, Baden Baden, t'as la ref. Merci. Je sais pas si tout le monde l'avait. Mais non, on fait pas du Valo. Et en ce moment, Valo, il se passe des trucs, là. On a fait une game hier. Il se passe un truc rigolo sur Valo en ce moment. C'est, j'ai créé un deuxième compte, théoriquement un compte Smurf, voilà, pour jouer à un niveau en dessous du mien. En fait, le vrai truc, c'était pour voir si mon MMR n'était pas complètement flingué, si je ne remontais pas sur ce deuxième compte plus facilement. Et c'est très drôle, ce compte secondaire, son skin très sobre, il est maintenant à plus haut elo que mon main. Donc ce Smurf, qui est désormais en bronze 2, est plus haut que mon main qui est en bronze 1. Voilà. Et donc ce n'est pas un Smurf. C'est donc un Smain. Point d'exclamation Smain. Contraction de Smurf et de main. Voilà. C'est très drôle. Et tous mes skins sont bien sûr sur l'autre compte. C'est très drôle. Donc on va continuer à jouer avec ce Smain. Et hier, on a notamment rencontré des Français complètement par hasard en solo queue. Des gars super sympas et on a fait des belles parties hier. Quoi. Donc on va poursuivre. Dans les prochains jours, là, on va continuer à jouer avec ce Smain, voilà, et voir si ce Smain, on peut le monter bronze 3 et peut-être et silver, quoi. Alors c'est vrai que j'ai changé des trucs, il y a aussi j'ai changé un écran, que j'ai passé en 240 Hz, voilà, et puis j'ai fait un autre truc aussi. Mais ça, je vous le dirai plus tard, suspense. C'est le 240 Hz qui carry, ouais. Attention Silver, oui, j'ai dit que si je passais Silver, j'allais courir tout nu sur les Champs-Élysées. C'est vrai. C'est pas un cheat, Non, c'est pas le M-Bot. Non. Mais je vous dirai, j'ai fait un autre truc. Tu as engagé quelqu'un d'autre pour jouer à ta place? Non. J'ai pas encore changé de clavier, j'ai un nouveau clavier super, mais je l'ai pas mis encore. Appuie sur insert pour voir. Je sais même pas quelle touche c'est. J'appuie. T'imagines? Et là, il y a un code cheat. Là, j'ai appuyé, là. Insert. Vous avez la ref? Mais tu montes pas l'écran suspect. Ah, c'est-à-dire qu'il faut faire quoi en plus? Tu as... Appuie Alt et F4 après. Daniel, la prochaine fois que tu fais la blague du Alt F4, c'est 600 secondes. Non, je ne sais pas changer d'épée. Non, mais je connais le clip du mec, effectivement, qui se fait avoir comme ça. Ouais. Je n'ai pas changé le viseur. Merci Lily Plu pour ton soutien et ton message. Mais je vous dirai, c'est un truc, ouais, c'est autour des yeux. C'est autour des yeux. C'est un truc sur les yeux. Vous connaissez ce qu'on appelle l'homme augmenté? Cyber, la, tu vois, cyber, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc par là. Je dis rien. Un plan bionique. Je dis rien. Lunettes Chris. Tout. Steve Austin. Tu t'es rasé les sourcils pour mieux voir. Transhumanisme, exactement. T'as ouvert les yeux. Voilà. Ah, tu as allumé. Pourquoi je dis pas. C'est marrant, personne n'a fait la blague. T'as allumé. T'as enfin allumé ton écran. C'est marrant ça. La bonne blague, là, tu sais. T'es en game, là. T'es en. T'es en série de loose, là, tu sais. T'as, tu te fais 2-3 loose, là. T'es bien, bien énervé, là. T'es vraiment. Tu es à côté de la plaque. Tu fais n'importe quoi. Y a rien qui va. T'as un mec qui écrit dans le chat. T'as pensé à allumer l'écran? Et là, t'as la colère qui monte, là. T'as la colère qui monte, là. Et là, attends. Et là, t'as envie de dire des atrocités. T'as envie de dire, mais tu sais où tu peux le, tu sais où je vais le mettre, l'écran. T'as envie de faire du mal. T'as envie de... T'as pensé à lui mettre ton écran? Tu sais, mais l'écran, je vais le prendre et je vais te tarer dans la gueule, moi. Ça énerve, ça. C'est super énervant. C'est super énervant. Hein? Non, c'est vrai, c'est super énervant. Ok. Faut que je me dépêche un petit peu. Faut que je parle des rythmes scolaires. Ouais. J'ai le temps de faire pipi ou pas? Je vous mets même pas de pub. Il n'y a pas de pub sur cette chaîne. Il y a zéro pub. Voilà, je vous laisse entre vous, vous discutez, je fais pipi et on passe sur le rythme scolaire, ok? J'ai encore une petite heure avec vous, ok? Je vous laisse entre vous. Ouais. Tiens, vous savez quoi? Je vous remets la promo. Oui, je me suis lavé les mains. Oui, je suis rapide. J'ai une grosse pression. C'est ça d'être en santé. En bonne santé. Carrefour, ils vont rien comprendre. Ils vont être dévalisés de leur promo sur le saumon. Ils vont rien comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait fait du stock pour 3 jours. C'est parti en une demi-heure, quoi. Et Camille qui régale, qui offre 3 abonnements à la communauté. Camille, merci. Merci, Zelbanichel. C'est comme Romanichel, mais en Zelbanichel. C'est drôle. C'est drôle. Merci pour le 5e mois d'abonnement. Romanichel, en plus, c'est un mot très négatif, ça. Mais à mon avis, ça vient pas de là, ton Zelbanichel. Il m'intrigue. Il m'intrigue. Je suis sûr que c'est pas ça. C'est étrange, il m'intrigue, ton message. Mais merci pour le soutien. Il va falloir ajouter collaboration commerciale. Non, j'ai pas reçu une thune. C'est interdit au scrap Romanichel maintenant, je pense, Pascal, j'espère bien. C'est une insulte, en fait. Romano, tout ça. Ouais, c'est une insulte. Hein. C'est un mot insultant pour parler de la communauté des gens du voyage. Pour répondre à Alex. Bon, allez, vite, les rythmes scolaires. Bon, ça, c'est vraiment un truc... J'ai l'impression qu'on en parle depuis la nuit des temps. On en parle, on dit ah, il faudrait faire ça, puis ça n'avance jamais. Bon, espèce de. j'allais dire de saumon de mer, non, de serpent de mer. Voilà. Et on en reparle, c'est reparti, parce qu'il y a une convention nationale, je sais pas quoi. Là. Bon, bah, on va faire mine de s'y intéresser. Et puis dans 15 jours, on aura oublié, ou pas d'ailleurs. Allez, let's go. Rythme scolaire, une de libération le mercredi, samedi, effectivement, très bonne vanne. Semaine courte, journée longue, grandes vacances, l'organisation en France du temps scolaire pénalise les élèves, ça va pas du tout. Hein, ils ont des journées trop intensives, nos chers petits. Voilà, ils ont trop de vacances, ils n'ont pas assez d'activités artistiques et sportives, vous savez, tout ça. Le débat qui revient encore et encore et encore et encore et encore et encore, sous la forme d'une convention citoyenne, promet d'être passionné. Édito de Paul Quignot, qui va peut-être nous dire ce que je viens de dire, à savoir qu'on en parle quand même depuis la nuit des temps de ce truc. La convention citoyenne sur le climat, un succès sur le fond, mais un échec politique pour Macron, vous rappelez, sur le climat, qui a donné, grosso modo, le sentiment de s'asseoir dessus. La convention citoyenne sur la fin de vie, succès sur le fond aussi, pour le coup, puisque c'est une étape qui a contribué à un examen plus apaisé à l'Assemblée de ce texte sur la fin de vie. Ok. Donc finalement, Libé nous dit les conventions, parfois, ça tourne bien. Quid de la convention citoyenne qui s'ouvre ce vendredi sur les temps de l'enfant, qui réunira jusqu'en novembre. Ah ouais, ça dure longtemps. 130 citoyens tirés au sort. Ok. Alors, comment ça m'intéresser ce truc? Il faut parier sur son succès, dit Libé. D'abord parce que la question posée, comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leurs apprentissages, à leur développement, à leur santé, ok, ça me plaît ça, est tout simplement crucial. Sans que l'échelle de notre école se résume évidemment à cette question des temps de l'enfant, elle y occupe une part importante. Il existe une autre raison d'espérer que cette convention citoyenne n'accouche pas d'une souris, que cet exercice de démocratie participative permette de réparer les bêtises, pour rester poli, commises par les politiques dans l'organisation du temps scolaire. Pour résumer, la quasi-totalité des spécialistes n'ont aucun doute que la semaine de 4 jours d'école ne favorise pas les apprentissages. Bah, mais mes enfants, moi, ils sont en semaine de 4 jours. Ils n'ont pas école le mercredi, quoi. Cela n'a pas empêché Sarkozy en 2008 et Blanquer en 2017 d'en être les VRP. Résultat, 90% des écoles fonctionnent aujourd'hui à ce rythme. Voilà. Une aberration. Moi, j'avais cours le mercredi matin quand j'étais gamin. Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi. Puisse la convention citoyenne permettre de faire marche arrière. Les débats s'annonceraient simples si le seul intérêt des enfants était pris en compte. Ce n'est pas le cas. Oui, ou le samedi matin, certains c'est le samedi matin. Ouais. Les enjeux économiques, notamment touristiques, pèsent, mais aussi les contradictions qui peuvent s'exprimer du côté des parents ou des enseignants. Voilà. À propos de ces derniers, deux conditions s'avèrent indispensables pour qu'ils jouent le jeu de cette convention, qu'elle ne tourne pas au procès des instits et des profs, qui ne le mérite pas, et que le financement que suppose une réorganisation soit mis sur la table. Ok. Oui, parce que parmi les freins à cette réforme, il y a les parents, parfois, et les profs aussi, à qui le système actuel va bien, quoi. J'avais aussi mes DST le samedi matin au lycée en enfer. Oh, moi, c'était le vendredi après-midi, les DST. 4 heures de maths le vendredi après-midi, pour bien te finir. Et après, ça t'étonnait que ça partait en grosse soirée, grosse fête pour relâcher la pression, quoi. Le mec, oui, bah, j'ai fourché, ça arrive. Ça arrive de fourcher. C'est dingue, vous avez jamais fourché, vous? Voilà, j'ai juste j'avais DST de maths le vendredi après-midi, après, il fallait décompresser. En faisant la fête. Faut chier. Ça arrive. Vaut mieux un DST qu'une MST. Ok, d'accord. Ok, lisons. Des journées trop longues, des semaines trop courtes, une année éclatée. Le temps de l'école reste un casse-tête et ce sont les enfants qui trinquent. Et moi, je dis non. Je dis, rappelez-vous mon programme présidentiel, 1 litre de rouge pour tous les enseignants à midi, mais non, les enfants qui trinquent, je dis non. Pour ceux qui suivent. Le débat sur les rythmes scolaires revient donc ça a l'air tant mieux, par l'apport d'une convention citoyenne. Et Libé nous rappelait que la convention citoyenne sur la fin de vie a plutôt bien marché. Celle sur les temps de l'enfant. MDR, c'est quoi cet article? Ah non, mais l'article est très bien, Warthog, c'est juste que je rajoute des trucs, moi. Le vin rouge pour les enseignants, c'est une proposition dans mon programme présidentiel. Ça n'est pas dans Libération. Ok. Donc, qui vient de s'ouvrir au Conseil économique, social et environnemental. Pendant 6 mois, 130 citoyens tirés au sort vont plancher sur l'organisation des journées, des semaines, des vacances des plus jeunes. Et en vrai, alors pardon, mais je commence à être hypé par ce truc. En lien avec une vingtaine d'enfants invités à partager leur expérience. 20 enfants, c'est pas beaucoup par contre. 20 enfants... Un chantier à la croisée de plusieurs politiques publiques, éducation, santé, loisirs, parentalité, censé aboutir à des propositions en novembre. Ok. Et la question du rythme scolaire sera forcément abordée. Les parents sont les premiers à sentir que leurs enfants sont crevés, c'est vrai. Selon l'OCDE, les élèves français travaillent plus que la moyenne européenne, 864 heures par an à l'école primaire contre 805, ce qui est beaucoup, mais en plus sur moins de semaines de classe, donc avec des journées plus denses. Merci Pascal. Leur calendrier scolaire, en revanche, est très fragmenté. Les vacances d'été, contrairement à la légende, ne sont pas les plus longues en France. Hein. On a 8 semaines. On a 13 semaines de vacances d'été en Italie. Oh oh, eh ben, on s'emmerde pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vacances en France. 16 semaines de congés annuels contre 14 en moyenne. Donc, c'est une question de vacances, mais pas seulement. Quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Fizz whiz bizz, ils foutent vraiment rien, les Italiens. Petite discrimination italienne, anti-italienne, là, tranquille, là. Hein. Et encore, alors, il n'a pas écrit Rital, quoi. On était à ça de... ils foutent vraiment rien, les Rital, quoi. Où on va, là? Où on va? Dolce Vita, bien sûr. Ce sujet ultra clivant est revenu dans le viseur d'Emmanuel Macron début mai, un an des municipales. Il n'a pourtant rien de nouveau, c'est ce que je vous disais au début, quoi. En 2010-2012, un comité de pilotage installé par l'ancien ministre de l'Éducation Luc Châtel avait mené un travail de fond avec les principaux acteurs de ce truc. Ça va donner quoi? Ça va donner rien, sans doute. Aboutissant à plusieurs pistes, dont le retour aux 4,5 jours de classe par semaine. Voilà, puis il ne s'est rien passé. Car, pourquoi? Derrière la question des rythmes se cache un grand désordre scolaire à la française. La semaine de 4 jours reste une dérogation au cadre légal, mais devenue la norme dans plus de 90% des communes. Malgré le consensus relatif sur ses effets délétères. C'est incroyable. Et oui, Rital, il y a le reste. Et dans le verbe, et dans le... J'adore, je me rappelle. Incroyable. Beau truc d'hypocrisie, tout ça. Hein. Marrant, ça. La Croix a fait un dossier là-dessus aussi. Merci, Lightchin. De toute façon, les parents, tous les parents dans le chat savent que c'est, le rythme est un peu fatigant pour les enfants. Quoi. On va lire le dossier de La Croix aussi là-dessus. En tout cas, le constat de Libération est assez intéressant. Quoi. Je vous lis. Hein. Perso, j'avais la chance d'avoir des parents professeurs dont mes vacances d'été étaient bien actives, mais les enfants pour qui c'est pas le cas, ils s'ennuient de ouf l'été. Azulina, quand tu nous dis que tes parents étaient professeurs et que les vacances d'été étaient bien actives, t'es bien en train de nous dire que t'avais cahier de vacances tous les jours et que c'était visite de musée sur musée ou exposition sur l'écosystème de l'artisanat de votre région là, en vacances là. Et puis le grand moment de fiesta, c'était la partie de Scrabble de 18h. Je déconne. Oh, je suis en train de me faire engueuler là. Bien les préjugés, dit Alexandre. Non, parce que les statistiques sont, enfin, ont la tête dure. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants d'enseignants réussissent bien mieux leurs études supérieures que les autres enfants, quoi. Les enfants d'enseignants sont surreprésentés dans les filières d'excellence. Donc après, je me dis, putain, les vacances, parfois, ça doit y aller, quoi. Évidemment, j'extrapole. Moi, j'adorais les cahiers de vacances et j'avais pas de parents profs. J'ai plus fan. T'adorais les cahiers de vacances? T'adorais les cahiers de vacances? Qui aime les cahiers de vacances? Qui êtes-vous? Qui sont vos réseaux? Pareil, trop bien les cahiers de vacances? Moi? Trop bien? J'aime bien? J'adore? C'était des jeux, c'était cool? Mais nous, avec mes frères et sœurs, on faisait les trois premières pages et basta, quoi. Ah ouais, vous aimez ça, vous? Ça, alors. Merci, chef 69. Pour le 37e mois, je découvre un truc, là. La vie, les cahiers de vacances? Ah, il y en a qui ça met en colère, ce que vous dites, là. Ouais, ouais, Mâche, je vois ce que tu veux dire. Waouh. Mes neveux adorent ça, ils en font deux ou trois chacun pendant les vacances. Picasso, il aimait tellement ses devoirs de vacances qu'il faisait ceux de ses cousins. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Ça existait déjà à ton époque, Sam? Oui, enfin nous c'était sur des tablettes en pierre, mais il y avait déjà ce principe-là, ouais. Ah, tout de passeport, là, ouais, passeport pour l'été, je sais pas quoi, là. Oh, putain, je suis... Ah, ça me débecte. Le mec exagère pas du tout, quoi. Ah, ça me débecte. Oh, putain, la vache. Ah, oui, jamais j'ai fait ça, moi. Ouais, bande d'intello, va. C'est fou, ça. Il y a un sondage? Oh, le sondage pas du tout orienté, quoi. Ah, le sondage pas du tout orienté. Je ne veux pas le commenter. Vous êtes des fous, quoi. Ah, ouais. Une de la Croix, également. Trouver le bon rythme. Une convention citoyenne, donc, s'ouvre aujourd'hui pour travailler sur les temps de l'enfant, dont les rythmes scolaires souvent inadaptés. Et là aussi, on voit un édito de la Croix qui nous dit « Il faut faire cette réforme. » Lou Besmond de Senneville écrit ce matin dans la Croix. Où mènera cette nouvelle convention citoyenne? 130 citoyens, blablabla, on a vu tout ça. De nombreuses études montrent en effet que notre système est pour le moins inadapté aux besoins des enfants. À écouter, c'est... je suis à preuve du contraire, l'école, c'est... on est d'accord que c'est pour les enfants. À écouter ces experts, leur semaine est trop morcelée, les journées des plus petits sont trop longues, et celles des ados commencent trop tôt. Et les ados, il faut laisser dormir, les ados. Hein, ça passe toute sa nuit sur Call of... On se crée caché sous la couette, là, ou je sais pas quoi. Le matin, il faut laisser dormir. Hein, on n'est pas dupes. Hein, aménageons les horaires scolaires pour que les ados puissent jouer au FPS tranquillement toute la nuit. Hein. Quant aux vacances toutes les 6 semaines, elles sont dictées par un secteur du tourisme. Ça, c'est vrai qu'il pèse aussi sur la licence de 3 zones qui permettent en France d'échelonner les congés en fonction du territoire. L'industrie du tourisme, elle est très pour ces très longues vacances, quoi. Moi, président, donc du vin rouge pour tous les enseignants à midi, 1 litre, voilà. Et début des cours pour les ados à midi, pour que ça puisse un peu jouer le soir, se détendre autour d'un ou deux FPS, quoi. Voilà. T'arrives à midi, déjeuner, comme ça tout le monde mange bien, voilà. Et à 14h, on commence, quoi. Enseignement généraux jusqu'à 15h, et puis après, un peu d'enseignement artistique et sport. Je vais te mettre dans la poche le vote jeune, moi. Tu vas voir comment les jeunes ils vont voter pour moi. D'ailleurs, je suis aussi pour le vote à partir de 12 ans. Pour cette même raison. Ils votent pas les lycéens, justement. Ça, il faut la réforme. Il faut la réforme. Alors, que pense la Croix de tout ça? On sait, cette méthode de démocratie participative, la convention citoyenne, là, n'est pas la panacée. On a vu ce que ça avait donné pour les gilets jaunes. Hein, ça, le Macron n'avait quasiment retenu rien. Mais on a vu que sur le climat, sur la fin de vie, même si tout n'a été pas retenu pour le climat, loin s'en faut, ça a été, c'est vrai, des échanges dont la qualité a été saluée par le sérieux, par le côté rigoureux et tout. Les travaux qui s'ouvrent le 20 juin ne pourront se résumer à de beaux débats, au risque de se réduire à un frustrant coup d'épée dans l'eau. Moi, je le dis depuis toujours, hein, donner des coups d'épée dans l'eau, ça sert strictement à rien. À la veille des grandes vacances, les citoyens mobilisés devront avoir la lucidité d'examiner d'autres modèles européens, montrant qu'une autre organisation est possible. Et que l'on peut envisager de structurer la vie des enfants autrement qu'en fonction de celle des adultes. Oui, c'est bien dit, ça. Il n'y a pas un truc sur les exemples étrangers, justement ? Ce serait bien, ça. Ce serait bien, non ? Ça nous manque, là. Waouh ! Une organisation où la scolarité ne débute qu'à 7 ans. De courtes journées de classe ne dépassant pas les 5 heures les deux premières années, avant d'augmenter progressivement. Des performances scolaires qui mettent le pays en tête des classements internationaux. C'est où, ça ? Bienvenue en Finlande, dont le système éducatif pourrait inspirer les membres de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Allons en Finlande ? Donc ça existe. En France, notre organisation actuelle fatigue les élèves, décourage, accroît les inégalités, explique Anne Genetet, ancienne ministre de l'Éducation et députée Renaissance des Français de l'étranger. Marrant ça, c'est intéressant. Finlande. Ça manque de promo sur le saumon, par contre, dans la Croix, je trouve, mais bon. On peut pas être bon sur tout. La majorité des parents ayant une activité professionnelle, les rythmes des enfants sont avant tout organisés pour être compatibles avec ceux des adultes. C'est marrant parce que, blague à part, on dit que les petits, par exemple, la vigilance maximale des petits, les plus jeunes, c'est 8 heures du mat. Voilà. Mais les ados, c'est plus tard. La puberté, tout change. Tu m'étonnes. Les cours à 8 heures du matin au collège et au lycée fréquents en France ne sont plus adaptés. Midi, let's go. Midi, je vous ai dit, moi. Les adolescents ont toujours besoin de 8 à 10 heures de sommeil, mais le chamboulement hormonal qu'ils subissent, les boutons, tout ça, et tout ça là, entraîne un retard de phase du sommeil. Ouais, c'est la FPS, ça. Vraiment, les journalistes, on les enfume comme on veut, quoi. Moi, je vais t'expliquer pourquoi ils se couchent tard, moi. T'inquiète, là. T'en donnez, moi. Tout ça au boulot, moi. Les vacances. Alors, 8 semaines de congé l'été, ça c'est ok en fait. Les Finlandais, ils ont 10 semaines l'été, vous voyez, donc c'est pas le problème des vacances. Les Lettons, 13 semaines. L'Italie, on a vu beaucoup aussi. Le vrai sujet, c'est celui des petites vacances. 2 semaines toutes les 6 semaines, c'est ça en fait. Il faudrait beaucoup moins. Comment tu fais, Samuel, pour dormir 4 heures par nuit et être aussi opérationnel depuis autant de temps ? Ben, t'as vu le résultat ? T'as vu dans quel état mental je suis ? T'as vu le nombre de bêtises que je dis à la minute ? Ben voilà. Dormez, les gars. Je suis l'exemple vivant qu'une mauvaise hygiène de sommeil. Regardez le résultat. Allez voir mon MMR. C'est... Eh oui. Les lapsus. Voilà. Eh oui. Dormez. Et oui, après, on fait des lapsus sur les fesses. La fête devient la fesse. Ok, c'est intéressant. Ben, vous savez quoi ? Je suis un peu hypé, moi. Je pense que cette convention citoyenne sur les temps de l'enfant va être intéressante. J'ai hâte de lire son résultat en novembre prochain. Et après, ce sera aux politiques de s'en emparer. Et parfois, on l'a vu sur la question de la fin de vie, par exemple, eh bien, ce travail est utile. C'est intéressant. Non, mais en tant qu'ancienne prof, me dit Emma, les vacances de la Toussaint, c'est indispensable. Il n'y a qu'à voir tous les collègues de la dernière semaine essayer de boire leur trousse au lieu de leur café et rentrer dans les murs en continuant à avancer pendant plusieurs minutes. T'as vu des profs essayer de rentrer dans un mur pendant plusieurs minutes? C'est long. Comme un PNJ un peu. Comme ça là. Incroyable. Waouh. Ah ouais, moi souvent je plains les professeurs pour les enseignants pour leurs conditions de travail, mais là, waouh. Ah, non, j'ai jamais vu ça, mais c'était le niveau de fatigue, j'en aurais été capable perso. Et tu penses pas que ma proposition d'un litre de rouge tous les midis pour les profs, ça pourrait détendre un peu?
Je sais pas.
T'en penses quoi, Emma, toi qui connais bien le monde de l'éducation? Tu valides ou pas ma proposition? Un litre de pinard pour tous les profs? T'en penses quoi? C'est validé ou pas? Pour détendre. Et comme ça, après, ils dorment un peu et les élèves sont un peu chill. Un litre par prof, ouais, et par jour. Emma, tu... Je sais pas si Emma valide. Rouge, rosé, blanc, pas de discrimination. Ok, d'accord. J'adore le pinard, après, pas sûr de pouvoir travailler l'après-midi. Bah, c'est le principe, c'est le principe. C'est le principe. Comme ça, vous vous reposez, tranquille, et les élèves, ils chillent. Ils font du dessin, ils font du sport. Voilà, trop. Faut quand même garder les enfants en sécurité. Bon, on ferme la classe à en rentrant du déj, l'enseignant ferme la classe à clé. Hein? Donc les élèves arrivent à 12h et les profs sont bourrés l'après-midi. Voilà, c'est ça, Goldana, c'est le projet. J'avais un prof qui n'a pas attendu cette propale pour arriver à Vinet dès le matin. Ben, je l'avais aussi celui-là, exutoire, ouais. Prof de latin. Toi aussi tu l'avais celui-là? Ouais, c'est un petit problème psychologique, je crois. Je crois qu'il a eu des soucis perso. Franchement. Prof de latin aussi? Non, mais franchement, c'était pas drôle, le mec, je pense qu'il y a eu accident de la vie, des soucis perso, ça allait pas du tout. Donc, ouais, il fumait comme un pompier, il picolait assez tôt, je pense, et il se lavait pas. Trop. Mais il se lavait pas. Mais il savait, parce que quand on faisait trop de bruit, nous, on ouvrait les fenêtres pour aérer, et quand on faisait trop de bruit, il disait, si vous continuez, je ferme les fenêtres. Le mec sentait vraiment très mauvais. Il sentait vraiment le clochard, quoi. Non, même pas le clochard. Il sentait l'animal mort, en fait. Ouais. Mais il le savait. Je crois qu'il allait vraiment pas bien, le monsieur. Et en fait, on avait un peu pitié, en fait. Et en plus, il avait des enfants dans l'école. Oh, les pauvres. Mais je crois qu'un monsieur abîmé par la vie. Voilà. Oh. Ouais, triste. Triste pour lui. Ouais, odeur de joueur de LOL. Ouais. Un peu. Ouais, pauvre monsieur. Histoire vraie. Ouais. Il y a des gens, c'est hormonal, leur sueur sent extrêmement mauvais. Non, mais là, c'était pas hormonal. Là. Non, c'était pas hormonal. Le pauvre, non, mais pauvre monsieur. Quoi. Il a eu des soucis. Là. Il a vu. Pas de chance, quoi. J'espère qu'ils s'en est sorti. Ça va, Azard, là? Tout va bien, là? Voilà, après tout, on a tous une histoire. C'est plus, certains plus durs que d'autres. Faut pas juger les gens. Je suis d'accord. Non, mais le monsieur, il a eu des soucis. Moi, je m'étais renseigné, il avait des... Le pauvre. Non, pas qu'il s'en est senti, qu'il s'en est sorti. La laine qui sent la tise, c'est pas hormonal. Oui, c'est vrai. Ouais, non, l'alcool au petit-déj, c'est pas une bonne idée. Hein. Surtout quand t'es enseignant, quoi. Bon. Alors, on va pas parler des enseignants, là. On va parler des médecins. Comme on faisait en hiver, on aérait quand même, on s'en foutait, on préférait être enrhumé.
Ouais.
On va parler d'un sujet. Alors pour le coup, là, zéro blague là. Des médecins auteurs de violences sexuelles et du fait que le conseil de l'ordre des médecins, qui est censé faire gaffe à ça, s'emballèque un peu, pour dire les choses. C'est dans Le Monde. Let's go. Ouais. Ouais. Ça, c'est un sujet vachement intéressant. Merci au Monde. Bravo pour ce travail. C'est page 12. Bonjour Samuel, j'aimerais te faire une remarque assez particulière. Je trouve que tu ressembles à Gecko, mais en plus âgé. Est-ce que c'est... c'est trop gentil. Ouais, suite à Le Square Neck, tout ça, ouais. C'est parti. Médecin accusé de violence sexuelle, l'inertie du conseil de l'ordre en question. L'affaire Joël Le Square Neck a mis en cause les institutions de santé qui n'ont pas empêché ce chirurgien à hauteur de centaines de viols sur des enfants d'exercer. D'autres affaires, posent la question de l'efficacité de cette justice. Interne aux médecins, quoi. Combien de plaintes de femmes faut-il pour qu'un médecin de plus de 80 ans déjà sanctionné pour des faits d'agression sexuelle soit définitivement radié par l'ordre ? 5 mois après que la sanction est tombée, interdiction d'exercice de 3 ans, le maximum avant la radiation, à l'encontre du radiologue qui l'a agressé, Nathalie ne décolère pas. Cette Parisienne de 45 ans a en effet entamé en juin 2024 une procédure disciplinaire contre ce médecin. Après une consultation de routine pour une mammographie, il a eu des touchés très insistants, des caresses, des seins complètement inadaptés, raconte Nathalie. En terminant le rendez-vous, il m'a dit que si je voulais rester nu, cela ne le dérangeait pas. Ok. Ok. Ça vient de se passer, c'était en 2024. Choquée, elle signale immédiatement les faits à la secrétaire médicale, qui lui fait comprendre qu'elle n'est pas la première. Ok. Donc, la dame porte plainte auprès de l'ordre des médecins de son département le soir même avant de découvrir là encore que d'autres femmes se sont manifestées avant elle. Ok. Le truc, à chaque ligne, tu... Wouhou ! À l'issue de ce parcours éprouvant devant la juridiction ordinale, Nathalie se questionne toujours sur le peu de célérité, de vitesse, donc, de cette institution. Même s'il a finalement obtenu la sanction disciplinaire de ce praticien pour, je cite, son attitude irrespectueuse à caractère sexuel attentatoire à la dignité des personnes, contraire au devoir de moralité et de probité des médecins et de nature à déconsidérer la profession de médecin, voilà, ça a pris du temps et ça a été compliqué. Alerté déjà en 2006, en 2015, en 2020, en 2022, le radiologue dont on parle, l'ordre n'a pas jugé utile de s'en occuper. A découvert la quadragénaire. Incroyable. Après sa plainte, l'instance aurait pu d'ailleurs saisir l'Agence régionale de santé pour activer une procédure en urgence et demander de la suspension immédiate du praticien. Ils ne l'ont pas fait. Alors qu'il y avait un passif de fou, quoi. Alors, question du monde, mais on commence déjà à avoir un début de réponse. La justice ordinale, donc c'est la justice... des médecins pour les médecins, de l'ordre, hein, est-elle adaptée pour juger des affaires de violence sexuelle ? La question a ressurgi au printemps durant le procès à Vannes dont vous avez entendu parler du chirurgien pédocriminel Joël Le Square Neck, le septuagénaire qui a été condamné à 20 ans de prison le 28 mai pour avoir agressé et violé 299 victimes, principalement mineures au moment des faits. Critiqué pour son inaction et sa défaillance, de même que d'autres institutions de santé, le Conseil national de l'ordre a admis des dysfonctionnements ayant permis au chirurgien de poursuivre sa carrière auprès d'enfants pendant plus d'une décennie, après pourtant une première condamnation pourtant, en 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Voilà. Conseil de l'ordre qui a présenté ses regrets. Ce qui fait une belle jambe aux victimes. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Un collectif de victimes a été reçu le 18 juin au ministère de la Santé pour dénoncer les manquements des institutions dans cette affaire. Le 16 mai, une vingtaine d'organisations, associations et syndicats ont appelé dans un communiqué commun à retirer tout pouvoir à l'ordre des médecins, coupable dans l'affaire Le Square Neck d'avoir ignoré les alertes. Coupable, au-delà de cette affaire, de protéger d'autres agresseurs sexuels et violeurs. Coupable de créer aussi un climat d'impunité totale et une culture professionnelle de l'omerta. Oui, parce qu'évidemment, les victimes ne sont pas encouragées à porter plainte si elles apprennent qu'effectivement, les plaintes ne sont pas considérées par l'ordre des médecins, quoi. Ce n'est pas la première fois que l'institution ordinale, donc le Conseil de l'Ordre des médecins, créé en 1945 pour veiller au respect du code de déontologie, est sur le banc des accusés. À intervalles réguliers, le traitement des plaintes et des signalements que lui adressent les patientes, car ce sont majoritairement des femmes qui sont concernées par ces violences sexuelles, est questionné. La Cour des comptes avait fait un rapport en 2019, et la Cour des comptes avait constaté qu'en matière de violences sexuelles, ils avaient eu vent de plusieurs affaires n'ayant pas été traitées avec la rigueur nécessaire. Cinq ans après, est-ce que les choses ont changé? L'Ordre des médecins dit oui. On a mis en avant des outils, des dispositifs renforcés ces dernières années. Voilà. Nous sommes en alerte au premier signalement, affirme une gynécologue qui est chargée des questions éthiques. Et le Conseil de l'Ordre qui demande aussi à la justice des choses qui aujourd'hui ne sont pas mises en place, comme par exemple le fait que le juge pénal informe systématiquement le Conseil de l'Ordre des affaires en cours, ou d'avoir accès au casier judiciaire et au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Parce que manifestement, le Conseil de l'Ordre n'a pas accès à ces informations aujourd'hui, quoi. Joli. Si la plupart des juges ordinaux sont des médecins, ceux qui président ces juridictions sont soit des magistrats administratifs, soit des conseillers d'État. Avec cette particularité de n'avoir ni pouvoir d'investigation, alors ça, ok, ils n'ont pas de pouvoir d'investigation. Donc en gros, c'est parole contre parole, c'est comment ça se passe ? Ni pouvoir de suspension immédiate. Justice entre pairs, dénoncée par les collectifs de victimes. De manière générale, l'ordre se place du côté des agresseurs, tacle Emmanuelle Pillet, qui est cofondatrice du collectif Féministe contre le viol, qui gère la ligne téléphonique Viol, Femmes, Information. Vous avez un médecin à la retraite, Bernard Coidou, qui justement lui dénonce depuis sa retraite cette juridiction d'exception. L'ordre sort de son immobilisme quand un cas fait du bruit dans la sphère publique et médiatique, sinon la confraternité, prime. Waouh, incroyable. Pour illustrer la lenteur de cette justice, M. Coidou évoque le dossier emblématique de Bassam El Absi, médecin radiologue de Gironde. Il a fallu plus de 20 ans, écoutez, 20 ans entre la première alerte et sa radiation. 20 ans. Pénétration digitale, va-et-vient avec la sonde d'échographie, massage, caresse intime dans le cadre des consultations. 20 ans entre la première alerte et le fait qu'il était viré de la profession. Waouh. Incroyable. Ok. C'est fou, ça. Bon, manifestement, il y a un truc à faire au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins. Que l'article a listé, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a zin. Ça vous dit, on fonde une autre société, genre dans l'espace, loin de la Terre ? Bah, on va essayer d'arranger celle-là, Firender. On va essayer. Prendre conscience des problèmes, c'est déjà un début de réponse, quoi. On essaie de faire ça tous les matins, Poulpeman. C'est l'objectif. Point d'exclamation RDP, revue de presse. Tu auras quelques infos, Poulpeman, sur ce qu'on essaie de faire le matin. Ça fait 5 ans qu'on a commencé. Alors, idéalement, c'est du lundi au vendredi, tous les matins, à 9h. Le problème, c'est que j'ai une semaine, 7 jours ouvrés, 2 semaines, lundi, vendredi, dans le mois, où je suis en question pour un champion, donc où je ne peux pas faire la matinale. Voilà. Et puis, parfois, j'ai des tournages qui viennent aussi m'empêcher de faire la revue de presse. Et malgré ça, j'essaie d'en faire un maximum. Cette semaine, par exemple, on a fait lundi, mardi, mercredi, vendredi. J'ai pas pu faire hier parce que j'avais les spectacles de fin d'année des enfants, ce qui est plus important que la revue de presse. Mais j'essaie vraiment d'être là le plus souvent possible. Voilà. Et à partir de samedi, par contre, je repars en question pour un champion. Je fais samedi, lundi, mardi. Je vais te dire. Il me reste 13 minutes. Bon, ok. On va aller sur le dernier sujet alors. Samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je fais que 5 jours là. Le problème, c'est que le vendredi, tu vois, j'ai accepté des tournages qui commencent le matin, donc exceptionnellement, parce que justement, les jours d'avant, je ne pourrais pas. Donc là, on va être littéralement une semaine sans revue de presse. Le seul moment où je serai plus régulier sur la revue de presse, c'est quand j'aurai plus question pour un champion, ce que je ne souhaite pas. Ce que je ne souhaite pas. Mais si un jour ça arrivait, eh ben du coup, bien sûr, l'Iran en a parlé, Shiro Ige, ce matin, mercredi, mardi et lundi. Mais si un jour j'arrête question pour un champion, pour une raison X ou Y, ou Z, là, il y aura de la revue de presse de façon extrêmement régulière. Quoi. Genre, je sais pas, lundi, vendredi, ce serait un peu le plan. Quoi. Espèce de rendez-vous vraiment carré. Quoi. Donc on se revoit dans une semaine, c'est ça? Non, dans une semaine. Là, il y aura une semaine qui va sauter. Allez, il reste une actualité. C'est... Oh putain, ouais. Attends. Ah non, mais ça va, j'ai un peu de temps. Non. Ah non, c'est à quel moment taxi? Ah mais non. Ah mais non, c'est maintenant, c'est fini. 50, ah zut. Voilà, bon, je vais très très vite sur Léa Salamé, pardon. Léa Salamé, on vient d'apprendre que... C'est la dernière actu que je voulais vous montrer. Léa Salamé donc va présenter le 20h de France 2 à la rentrée. Je vais expédier ça en 5 minutes. C'est la une du Parisien, carrément. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une affaire qui mérite la une d'un journal? Pour moi, non. Bon, je trouve que c'est un peu nombriliste que les médias parlent des médias à ce point. Vous avez deux pleines pages dans le Parisien, 26 et 27 sur ça. Bon. D'autres journaux font un autre choix. Je prends l'exemple de La Croix ce matin, qui ne consacre qu'une petite, ce qu'on appelle une brève dans notre jargon. C'est page 19, vous allez voir. Là où le Parisien fait par exemple deux pages, La Croix. Ah, le téléphone. Il y a une petite brève en haut à droite, là. Voilà. Donc, bon, mais le Parisien estime cela important et parle donc des dessous d'une sacrée surprise. Donc la journaliste quitte la matinale de France Inter, elle a beaucoup hésité, pour prendre le fauteuil du 20h de France 2, qui est un poste très prestigieux, hein, vous le savez, tout en gardant les clés de son émission qu'à l'époque elle va pouvoir cumuler, ce qui est pourtant très compliqué dans une entreprise de médiatique, quoi, notamment France Télévisions. Voilà, le Parisien revient sur le suspense, elle a beaucoup hésité, ses proches lui proposaient plutôt d'accepter la proposition de BFM qui lui avait fait un pont d'or avec disent les rumeurs, c'est pas une info, beaucoup d'argent et puis beaucoup de pouvoir de créer vraiment une émission qui lui ressemblait. Et finalement, elle a accepté plutôt la proposition de France 2. Voilà. Une femme d'origine libanaise aux 20h, ça claque. Quand même, se réjouit un de ses proches, qui rappelle que la journaliste de 45 ans est arrivée en France à l'âge de 5 ans et que son père, Ghassan Salamé, actuel ministre de la Culture du Liban, est un fils d'agriculteur. C'est un exemple de réussite républicaine, applaudit un autre. Kebabzer dit bravo à Léa, elle est partie de rien pour monter au sommet. Le Parisien dit c'est un exemple de réussite républicaine. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il suffit de se pencher sur l'histoire de le parcours de Léa Salamé pour comprendre qu'elle ne part pas vraiment de rien. Alors je sais pas si c'est un exemple de réussite républicaine, pour le coup. C'est ce qui n'enlève rien à son talent. Donc on voit qu'elle naît à Beyrouth en 79. Son papa est ministre de la Culture entre 2000 et 2003, et puis à nouveau depuis peu. Il est politologue, il est professeur à Sciences Po Paris, ancien conseiller général, spécial du secrétaire général de Kofi Annan. Sa maman était sœur de Diamantaire. Bon, elle arrive à l'âge de 5 ans à Paris. Scolarité secondaire au lycée Saint-Louis de Gonzague, école alsacienne à Paris. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un lycée qui est un peu fréquenté par les familles plutôt à l'aise, on va dire. Et puis, à ça, c'est Sciences Po Paris. Et une année à l'Université de New York. Donc, études brillantes, mais c'est pas, moi, j'ai beaucoup de respect pour Léa Salamé. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a beaucoup de talent. Mais le parti de rien me semble, pour le coup, un peu exagéré, quoi. Voilà. Par contre, ce qui est assuré, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a énormément travaillé. Moi, je l'ai croisé parfois, qui a beaucoup de talent aussi, des talents que moi, je n'ai pas, sans doute, sur plein de trucs, et même sûrement. Et puis aussi de l'ambition. Et aussi de l'ambition, parce que dans cet univers-là, tu n'arrives pas sans ce genre de poste prestigieux qu'elle a déjà occupé, comme la matinale de France Inter, par exemple, le 20h de France 2, sans ambition. Et je trouve ça sain. Personnellement. Donc voilà. Donc mais le parti de rien me semble un peu exagéré. Alors, présenter le JT, elle avait refusé déjà en 2017, mais cette fois, elle s'est laissée convaincre. Depuis des mois, la matinalière de France Inter reçoit des propositions de toutes parts. BFM lui a proposé l'un des gros salaires du PAF pour présenter un talk show en fin de journée. C'est ce que je vous disais, moyen XXL pour produire tous les jours pendant 3 heures une sorte de grand journal, période Michel Denisot. Ouais, je vais être en retard là. Voilà. Ça aurait pu l'envoyer dans une autre dimension, hein, animatrice-productrice, notamment sur un plan économique, mais elle a fait le choix de la sécurité, regrette amère une des parties de la négociation. Voilà. Cet hiver, la direction de France 2 apprend ses discussions, se plie en quatre pour garder sa star, raide des samedis soirs avec Quelle Époque, inconcevable pour la grande patronne Delphine Ernotte que ce visage du service public parte dans le privé. Ils lui ont tout proposé, le JT, même un late show quotidien, se souvient un témoin. Donc bref, le Parisien nous raconte comment France Télévisions a réussi à garder ce talent, quoi. Voilà. Ce qui en soi est une bonne chose. Je pense que Léa Salamé est vraiment un atout pour le service public, quoi. Donc après, il y a les autres histoires. Le fait que Caroline Roux ait été pressentie. Caroline Roux, à qui le journal a même été précisé. Et puis finalement, elle a refusé au dernier moment pour ne pas quitter C'est à vous. C'est à vous ? Non. C'est dans l'air. C'est à voir. Oh, je sais plus. France 5, c'est que des C, là. Je suis perdu. Enfin, c'est quelque chose. C'est quoi ? Caroline Roux, c'est quoi, vous vous rappelez ? C'est dans l'air. Merci beaucoup. Moi, je suis désolé. Ça, c'est mon côté vieux con. Toutes les émissions avec des C de France 5, je ne sais jamais qui est quoi. Donc, Caroline Roux, on lui a proposé le 20h et elle a refusé. Reste, alors il y a l'aspect politique, reste le problème Raphaël Glucksmann, son compagnon, qui est député européen du mouvement de gauche Place Publique, qui entend jouer un rôle en vue dans la course de l'Élysée 2017. Voilà. Et évidemment, à France Télévisions, on répond, et ça me semble la bonne réponse en vrai. On répond, on se pose la question si la question se pose. Parce qu'évidemment, imaginons qu'il devienne, je sais pas moi, président de la République ou ministre, ou premier ministre, avec une femme qui présente le 20h de France 2. C'est un sujet. Dans le passé, il y a déjà des femmes journalistes qui ont dû se mettre en retrait comme ça, en raison. Béatrice Schoenberg, par exemple. Marie Drucker aussi, je crois. Se mettre en retrait de leur activité médiatique. Et donc, la question se posera à ce moment-là. Mais c'est pas la peine de la poser avant, je suis assez d'accord. Voilà. Je vais très très vite sur Léa Salamé parce que je manque de temps, mais je peux répondre à quelques-unes de vos questions rapidement si vous voulez. Mon taxi m'attend déjà. Je vais mettre mes chaussures. Voilà. Audrey Pulvar, je sais plus, peut-être. Ouais. Oui, Téfix, c'est vrai que Léa, je l'avais croisée sur le plateau dont on n'est pas. De comment ça s'appelait ? On n'est pas couché ? Ouais, c'est ça. Sam OJT de France 2, non. Je pense que ça n'est pas dans les projets de France Télévisions et ça n'est pas dans mes projets non plus. Moi, l'objectif, c'est Silver, sur Valo. Je vous lis, hein, n'hésitez pas. Après, moi, j'ai pas d'avis sur Léa Salamé au JT. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne l'ai pas vue en exercice. Bon, je regarde pas les JT, moi. Je préfère lire les journaux, ça, vous le savez. Mais j'en ai quand même présenté quelques-uns des JT, même beaucoup, sur France 3, sur ITL, sur Canal+, en radio, Europe 1, Radio France Internationale, France Inter, France 3. J'allais oublier. Et donc, l'exercice, même si je le regarde pas, je trouve que c'est un bel exercice, bien sûr. Et je pense qu'il faudra juger Léa Salamé sur ses qualités de présentatrice du 20h de France 2 quand elle présentera le JT de 20h de France 2. Elle a de vraies qualités professionnelles qu'elle a pu démontrer au fil des années, quand même, que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, jugeons sur pièce. Hein ? Donc certains sont très catégoriques sur le résultat. Jugeons sur pièce. Pardon. Pardon, je suis un petit peu expéditif sur le sujet. Tout simplement parce que j'ai un rendez-vous de boulot, de télé, là, à 12h30, et je dois traverser Paris. Et mon taxi va m'attendre. Je suis confus de prendre congé de vous aussi vite. Boum. Mais je ne voulais pas vous faire mine d'évacuer le sujet alors que c'était à la une du Parisien ce matin. Vous m'auriez dit « Ah, il ne veut pas parler de ça parce que c'est à France Télévisions, par exemple. » Vous voyez. Donc ça me semblait important d'en parler même rapidement. Et si vous voulez qu'on en reparle dans les prochaines revues de presse, je répondrai à vos questions. On fait un raid ? Qui est en live ? Stream ce soir ? Ouais. Je vais essayer de streamer ce soir. Normalement, on va essayer de streamer du Walking Dead ce soir. Je regarde qui il y a plein de gens, plein d'amis. Ouais. Ok. Bah, y a plein de gens sympas. Hein. Pourquoi il marche pas mon bizarre. J'arrive pas à afficher les. Je vois que... Ah si, c'est bon. Je prends le temps parce qu'en fait, j'aime pas me presser pour un raid. Mais pourquoi pas en vrai, ouais. Si on allait au Japon, on va au Japon ? Allez. Il y a la mini Nihon qu'on a reçue dans Simplay, qui est sur Edge of Empire, qui était de passage à Paris alors qu'elle vit au Japon, française et expatriée au Japon depuis très longtemps. Et elle est sur Edge of Empire 4, Edge of Empire qu'elle m'a fait découvrir dans Simplay, que j'ai redécouvert après avec l'ami Alpha Cast au Louvre, et elle est en plein live depuis le Japon. Voilà. Donc, et c'est une super streameuse. Et c'est une passionnée d'Edge of Empire, c'est vraiment son jeu de cœur. C'est parti, je charge le raid, je saute dans mon taxi, et je vous retrouve ce soir pour du gaming. Merci pour ce matin, c'était un plaisir de discuter avec vous de l'actualité. Oh, le taxi, il doit être là. Ok, c'est parti pour le raid. Ciao, ciao, à ce soir.
Je n'arrive